Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Au bout du foot présentée par Eladji Makanou. Le Cholismo n'est pas mort, ça a décalé un peu le sommaire. En tout cas, on a eu du beau football dernièrement et franchement, on va revenir là-dessus. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes bien installés. C'est parti avec Lucas. Comment ça va, Lucas?
Ça va et toi, Eladji?
Ça va, super. Bonne semaine de foot pour toi.
Bonne semaine, semaine mitigée, mais bon, on va en parler, on va en parler.
Et toi Maxence, comment ça va?
Ça va très bien.
T'as sorti la chemise aujourd'hui?
Ah, je reviens du travail, bleu, j'ai pas
clair,
eu le temps de... Ah oui, les couleurs.
Ah, les couleurs.
On est clairement dans une thématique par rapport à cette fin de week-end.
Ah oui, là c'est clair, net.
C'est bien, on est sur une belle route, 9 sur 9, on continue et puis voilà, on va voir ce que la semaine nous réserve au niveau européen. Pas pour l'OM du coup, pour le reste.
Ça c'est sûr, mais peut-être l'année prochaine, on espère. Ibrahima, comment ça va?
Salut, ça va et là, salut à tous.
Ça va, super, je te sens un peu fatigué là.
Non, même pas, c'est...
J'espère que t'es d'attaque
ça
là.
Ça prend de l'énergie pour regarder tous les matchs le week-end, mais sinon ça va.
Sur tous les matchs de Ligue 1?
Ouais, surtout. Mais non, mais franchement, cette année, niveau, on en parlera, mais cette année, franchement, ça va.
Ok. Et toi, Alexandre, t'as pas bougé de ta place?
Non, j'ai pas bougé. Tout
comment ça va? Poste.
Ça va, tranquille. Moi, c'était un peu plus compliqué ce week-end là, parce que ces derniers temps, c'est compliqué, mais bon, il y a une bonne semaine européenne là qui arrive. J'espère que ça va le faire.
On espère, en tout cas, franchement, du côté de la Ligue 1, on s'est régalé. Bon, vous l'entendez sûrement un peu dans ma voix, je suis un peu enrhumé, mais je suis là, en tout cas, je suis là. Et je tenais vraiment à être là avec vous, comme chaque semaine, parce que sinon, vous m'aurez trop manqué, du coup. voilà. Et du coup, on va enchaîner avec la Ligue 1, hein, les résultats. Le Paris Saint-Germain qui n'y arrive toujours pas, hein, deuxième journée consécutive où le Paris Saint-Germain fait un match nul. Et là, c'était 0-0 face à Auxerre. C'est compliqué un peu pour le PSG en ce moment, un peu sur tous les tableaux. Lucas, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est compliqué. On voit que même avec le retour de Gonçalo Ramos, Paris n'arrive pas à marquer. Et même dans les intentions, dans le jeu, les combinaisons, elles se font rares. Il y a assez peu de rythme, c'est pauvre offensivement. Il y a toujours cette philosophie de Luis Enrique qui veut beaucoup de contrôle, etc. Mais là, on remarque que le contrôle se fait au détriment de tout l'allant offensif, de toutes les combinaisons rapides. Et du coup, on s'ennuie, il se passe peu de choses. Et là, on voit que quand même, clairement, Paris ne marque pas, même en championnat. Ça marque très peu de buts. C'était un but à Nantes la semaine dernière, c'est un aujourd'hui. C'est relativement peu d'occasions. Donc c'est assez inquiétant, ouais, parce qu'on voit que justement les outsiders de la Ligue 1 sont en forme, qui se rapprochent. Je te l'ai déjà dit, je pense que Paris sera champion, je suis toujours pas inquiet, mais c'est vrai que là, ça fait un peu de peine à voir ces derniers matchs.
Avec Léon qui a fait un super beau match aussi, hein, on peut le notifier aussi, hein, 11 arrêts quand même dans un match.
Il fait un beau match, mais tu vois, il y a celle sur Nuno Mendes où ils sont face à face qui est bien, mais sinon il n'y a pas d'arrêt extraordinaire.
Il y a celle de Sergio Ramos, moi je repense à celle de
Gonçalo Ramos.
La tête,
voilà, la tête, elle est sur lui, là, il lève le bras, pour moi c'est...
Il va la chercher quand même.
Non, il est pas très pris, il va la chercher, ouais, non, je suis d'accord, mais je trouve qu'il y a...
Dernière de Colomagny.
Oui, Désiré.
Ouais, Désiré Doué aussi.
Le Désiré Doué à la 94e.
Mais pour moi, il n'y a pas un arrêt exceptionnel, incroyable, à comment Paris a mis le feu. Donc moi, je pense déjà qu'il ne mérite pas son 10 sur 10 dans l'équipe.
Oui,
je lui mets 8 ou 9, je trouve qu'ils ont vraiment abusé. J'ai vu des performances de gardien bien plus incroyables que celle-ci. Après, il a eu le mérite de garder la cage inviolée. Mais moi, je trouve que c'est surtout le manque de dynamisme de Paris. Il y a eu quelques occasions. Heureusement que sur 90 minutes, on arrive à citer 4 occasions franches quand même. Mais globalement, sur le match... On s'est ennuyé, c'était pauvre, il y a peu de combinaisons. Et à aucun moment, Paris a fait un gros temps fort où ils étouffent l'adversaire. Non, c'est vraiment décevant de la part du PSG.
Après, il faut savoir qu'il y a eu quand même 11 arrêts de la part de Léon. Il y a eu quand même 11 arrêts et il a réussi à garder sa cage inviolée. C'est ça, un clean sheet. Et du coup, un clean sheet pour Auxerre, on sait que les défenseurs... Non, mais franchement, face au Paris Saint-Germain, c'est pour ça, je pense, plus la note que pour les... Voilà, tu fais un clean sheet face au Paris Saint-Germain en faisant de très bons arrêts et en étant le meilleur joueur de ton équipe. Je pense qu'il n'y a pas photo. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Maxence?
Sur Donovan Léon en particulier ou sur le PSG en général?
Sur le PSG en général, là, sur ce match aussi, tes impressions?
J'ai l'impression qu'on se répète tous les lundis, en fait, sur le PSG, là, récemment. J'ai l'impression de devoir dire la même chose que la semaine dernière sur Nantes. Là, c'est Auxerre. C'est vrai qu'on avait eu le débat à l'époque sur l'utilisation d'un numéro 9 ou pas, etc. Là, maintenant, on voit qu'il a changé. Il a mis Ramos, remplacé par Colomoigny, donc il a joué avec un 9 tout le long. Ça n'a pas changé grand-chose à l'efficacité. Et voilà, on est toujours sur la même stérilité de A à Z. Je pense toujours qu'ils vont être champions, mais je pensais que la Ligue 1 était pliée et qu'elle serait pliée à l'hiver. Possiblement ce sera pas le cas, parce que là il leur reste deux gros tests avant la trêve, si je me trompe pas. Il y a Lyon et il y a Monaco, donc voilà, ça donne envie. En tout cas le PSG Lyon de la semaine prochaine, surtout avec la forme de l'OL en ce moment, ça, je demande à voir.
Ibrahima, toi, comment t'as ressenti tout ça?
Bah déjà, je tenais à préciser que par rapport au match du PSG, je sais pas vous, mais moi personnellement, je trouve qu'on s'ennuie pas mal quand même cette année. C'est peu attractif, c'est beaucoup de passes latérales.
Que depuis cette année?
Particulièrement cette année.
Particulièrement cette année. L'année passée, il y avait, quoi qu'on dise, il y avait Mbappé quand même. Et Dembélé était un peu plus en jambes quand même la saison passée.
Dembélé qui joue sur le banc.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Dembélé qui est sur le banc les deux derniers matchs. On rappelle qu'il est suspendu pour le match cette semaine, donc. Je ne sais pas s'il y a des frictions en interne avec Luis Enrique, mais tout laisse à croire ça. Et pour revenir sur le match face à Auxerre, très bon match de Léon. Et j'arrêtais pas de dire qu'il fallait un attaquant pour le PSG, parce que sans attaquant, on sentait clairement qu'en attaque, il y avait un problème d'efficacité, et que même on sentait dans les combinaisons qui manquaient d'un point d'appui, d'une fixation. Mais finalement, avec Gonçalo Ramos, c'est pas mieux en fait, donc...
Est-ce que le Paris Saint-Germain se sert bien aussi des appels de Sergio Ramos et l'utilise Gonzalo. Est-ce que ouais, de Gonçalo, je sais pas pourquoi.
Il y a une nostalgie qui parle.
Non, je suis vraiment Gonçalo Ramos, je vais juste dire Ramos comme ça. Non, je vais juste dire Ramos. Quel joueur quand même Sergio Ramos, on va pas faire une aparté là-dessus, mais voilà, non, Gonçalo Ramos, et franchement est-ce qu'il l'utilise assez bien pour que ça soit en termes des joueurs, est-ce qu'ils le servent aussi bien, que ça soit dans les centres, dans la profondeur, qu'est-ce que Luis Enrique demande, est-ce que ça marche quoi?
Bah non, après bon, je vais pas trop lui tirer dessus, faut pas oublier non plus que c'est sa première titularisation.
Deuxième.
Ouais. Contre Nantes aussi, le titulaire.
Ah oui, il avait joué contre Nantes aussi, mais il revient de blessure, donc c'est peut-être sa troisième titularisation depuis le début de saison. Bon, il est pas en jambes, ça se voit, il a du mal clairement. L'absence de Dembélé n'aide pas dans tout ça aussi. Kanginli, moi, personnellement, je sais toujours pas. Et puis, il y a des joueurs... Et l'effectif fait pas peur du tout, en fait. Enfin, il y a des joueurs comme, je sais pas, moi, Asensio, c'est catastrophique. Fabien Ruiz, il a jamais retrouvé le niveau de l'Euro. Il est bon, j'ai l'impression qu'il est bon qu'en sélection.
Oh, il est bon qu'en sélection.
Zahir Emery fait pas mal de pertes de balles, quand même. Il est pas dégueu, mais il y a trop de déchets, il y a trop de pertes de balles. Et ça, en Ligue des Champions, on l'a vu, ça pardonne pas. Donc ouais, non, l'effectif n'est... Moi, je pense que l'effectif n'est tout simplement pas... Il n'est pas bon, en fait, tout simplement. Il ne faut pas passer par quatre chemins. Ça reste assez bon pour être champion. Donc, comme l'ont dit mes collègues ici présents, je pense que le Paris Saint-Germain sera champion de France malgré tout, parce que même en face, j'ai l'impression que les équipes adverses même n'y croient pas. Donc je pense qu'ils seront champions. Mais pour la Ligue des Champions, ça risque d'être compliqué. Et je ne suis même pas sûr qu'ils gagnent cette semaine. Hein. Même si Salzbourg, c'est très faible, je...
Je pense que Salzbourg, c'est plus faible qu'Auxerre. Hein.
Ouais, c'est très
pas loin, c'est méchant.
Tu penses? Je sais pas. S'il y a match demain entre Salzbourg et
je suis pas sûr. Ils ont perdu face à Brest, hein, Salzbourg. Je crois qu'ils sont 5e du championnat autrichien.
C'est facile de dire. Oui, non, ils ont perdu contre Brest, mais fallait voir le match. T'as vu le match? Franchement, ils perdent un match qu'ils doivent jamais perdre. Ils perdent un match qui, à la mi-temps, normalement, il y a 4-0 pour Salzbourg. Ils le perdent,
c'est ça le problème.
Bien évidemment, mais c'est un match. En gros, je pense qu'ils le jouent 10 fois, ils le perdent une fois.
Je pense quand même que normalement, il doit pas y avoir match contre Paris. Même un petit Paris, ça doit passer.
Paris Saint-Germain qui, en tout cas,
Gérone, moi ça m'a fait peur hein, ce que j'ai vu. Hein.
PSG, franchement, on va revenir sur Salzbourg. On en parlera juste après sur Salzbourg Paris Saint-Germain, mais en sachant que le dernier attaquant qui a marqué en faveur du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est Kylian Mbappé, hein, qui est au Real Madrid déjà depuis un certain moment. Contre le Barça, il me semble. Ouais.
Parce que contre
Dortmund, il y a 0 but.
Ouais, voilà. C'est ça.
Et du coup, Alexandre, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça? Luis Enrique fait-il les bons choix? Colomoigny, est-ce que Colomoigny, parce que Colomoigny, on repense encore une fois à la finale de la Coupe du Monde, encore, parce que c'est un peu dans le même élan, hein, il s'en va face au but,
il bute encore sur
le gardien. Est-ce qu'il a un traumatisme? Est-ce que c'est. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alexandre?
Non, je pense pas qu'il ait un traumatisme. Mais après, là, on peut pas en vouloir à Luis Enrique de pas l'avoir fait commencer Kolo Muani. Donc je trouve ça logique en fait que Gonçalo Ramos, s'il ait commencé titulaire, là, il n'y a pas de doute possible. Mais on peut pas non plus tirer sur Gonçalo Ramos, comme disait Ibrahima, parce que ça fait quand même son deuxième match. Il revient de blessure. Il a été absent depuis août. Une grosse blessure à la cheville. À la cheville. Donc pour l'instant, Kolo Muani, Gonçalo Ramos, on va lui épargner un peu les critiques. Mais voilà, moi, quand j'ai vu la compo de départ, j'étais plutôt normalement surpris. Enfin, rien de surprenant, je veux dire, c'est dans la continuité. Après, moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit
Dembélé vraiment, remplaçant, en fait. Ça t'a pas...
Non, ça m'a pas choqué plus que ça, parce que c'était quand même Barcola et...
Kanginli
sur les côtés. Kanginli, moi, pour moi, qu'on le veuille ou non, c'est un bon joueur de ballon. Après, lui, il est plus fait pour être dans un milieu à trois, je pense, que... plutôt que ailier ou faux ailier,
ouais, faux neuf,
faux ailier ou faux neuf. Mais en fait, moi, je suis là, ce qu'en fait, tout ce qu'a dit Brahima, je suis d'accord, c'est à dire que l'effectif pour moi, il est vraiment limité. Il y a vraiment un effectif limité. Quand ta star c'est Ousmane Dembélé, c'est qu'il y a un problème quelque part. On a beaucoup vanté les performances de Barcola depuis le début de saison, et à juste titre, puisqu'il a fait 5-6 bons matchs qui étaient plutôt bons. Mais Barcola, c'est un joueur plutôt pour l'instant en devenir, et c'est pas du tout un joueur confirmé. Donc moi, je pense qu'il y a quand même un gros problème d'effectif. Et voilà, à voir pour la suite. Là, on va parler de Salzbourg tout à l'heure. La Ligue 1, ça sera plié. Pour moi, il n'y a pas de débat possible. Après, la Ligue des Champions, c'est toujours autre chose. Mais si, comme a dit Maxence aussi, les matchs se suivent et se ressemblent. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, là, pour moi, je suis un défenseur de Luis Enrique. Mais le jeu n'évolue pas, faut le dire.
Le jeu régresse même, tu peux le dire. Régresse. Franchement, là, depuis un mois, on s'ennuie fort.
Comme tu as dit, en fait, il cherche tout le temps l'équilibre. Sauf que pour marquer, à un moment donné, il faut assumer le déséquilibre. Il faut créer un déséquilibre.
Exactement,
pour marquer.
Totalement.
Et là, il y a tout le temps un équilibre, que ce soit en défense, au milieu de terrain ou en attaque. C'est tout le temps de l'équilibre, des passes latérales. Ouais. Et quand tu as des ailiers qui ne sont pas performants et qui ne peuvent pas éliminer en 1 contre 1, c'était le problème de City pendant un moment. Forcément, ton jeu, il est stérile. Donc du coup, pour moi, Luis Enrique, là, c'est la dernière saison test. Après, il ne faudra plus lui trouver d'excuses. Ah,
franchement, toi, t'es gentil déjà avec deux saisons test. Non, avec Kolo Muani, si. J'ai pas entendu de deux saisons test. Hein. Mais on va poser le doigt sur Barcola quand même. Hein, parce que Barcola, qui est maintenant, qui vient de se faire égaliser par Greenwood en termes de classement des buteurs, Jonathan David qui leur sont passés devant. Barcola n'y arrive plus, même en Ligue 1, parce qu'en disant en Ligue des Champions, il n'y arrive pas du tout, mais en Ligue des Champions, moi je commence à penser que c'est un super sub, finalement, Barcola, que c'est un super sub et que c'est pas un joueur qui peut démarrer les grandes rencontres, et que pour le préserver et pour son bien, pour son développement, il doit rester sur le banc et avoir quelqu'un en concurrence à chaque fois pour rentrer et faire ses preuves encore. Est-ce qu'on lui a pas donné un peu tout de suite, trop tôt, Maxence ?
Ouais, Barcola, là on est en train de se rendre compte, ça peut pas être le facteur X de ton équipe à haut niveau. Ça doit être peut-être pas remplaçant, mais ça doit être un adjoint, quoi. Enfin, le junior de l'équipe, le mec qu'on met là, mais qui est pas le rôle de la star. Normalement, c'est Dembélé. Enfin, dans le, je suis pas d'accord, hein, mais dans le comment est construit le club, comment est construit l'équipe, c'est lui qui doit porter le truc parce que il a 27-28 ans, il est mature, il a connu le Barça avant, etc. Il arrive comme la star vu que Mbappé est parti. Et Barcola a endossé ce rôle-là en début de saison en étant très bon. Mais là, il commence à être attendu maintenant sur toutes les pelouses. Les mecs le connaissent, c'est des prises à deux, c'est à trois. Et puis, on voit qu'il n'existe plus à partir de ce moment-là.
Trois, t'es gentil, hein, franchement. Il ne fait plus aucune différence, en vérité.
Oui, bien sûr. Même quand mais parce que maintenant, il y a un œil un peu plus averti sur lui.
C'est parce que c'est un joueur qui marche à la confiance, Barcola. Ça se voit. Enfin, comme la plupart des joueurs d'ailleurs, mais lui particulièrement. Il était en confiance au début de saison, tout roulait bien. Et là, maintenant qu'il a vu que ça allait moins bien, bah, ça tend à aller moins bien. Et je pense que ça va être comme ça toute la saison. Enfin, en tout cas, tu peux pas.
Puis là aussi, aucune concurrence. Hein.
Mais tout l'effectif, ça ne pas que tout l'effectif est comme ça. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que là, ils sont tous bridés, en fait.
Bah, en fait, t'as des irdoués, mais c'est un peu dans le même profil. Et Lucas, je voulais venir. Aujourd'hui, tu choisirais qui entre Barcola et Malik Fofana?
Moi, tu sais, j'aime pas la culture de l'instant. Malik Fofana, il est super, c'est un dynamiteur, mais il a eu du temps à Lyon. Les premiers matchs, il n'était pas décisif. Là, il est en train de vraiment s'installer à Lyon. Après, Malik
Puis
Fofana,
le contexte de Paris est spécial aussi.
Exactement. Barcola, il a quand même mis 10 buts. Donc, c'est pas quand même seulement 4 bons matchs qu'il a fait en début de saison. C'est une solide demi-saison, quoi qu'on en
dise. Sans pénalty.
Sans pénalty, exactement. Après, moi, ce que je trouve, c'est que tout l'effectif du PSG est bridé. Je veux dire, quand tu vois Vitinha, la dimension qu'il a pris en fin de saison dernière et ce qu'il nous montre, par exemple, contre Auxerre.
Il est méconnaissable.
Il est méconnaissable, il fait plus de passes vers l'avant. On voit sur un ou deux. Exactement.
En fait, personne ne progresse.
Moi, j'ai trouvé que Vitinha contre Auxerre, il était plutôt bon. Hein. Bah, avec la barre aussi, mec,
c'est le meilleur des trois. C'est le meilleur des trois, mais il n'est pas bon non plus.
Mais maintenant, moi, j'ai l'impression que pour être bon ou pour devenir plus fort, il faut s'entourer des grands. Il faut être entouré de meilleurs. Voilà, de meilleurs et de grands. Maintenant, quand tu es dans une équipe, entre guillemets, qui est assez limitée, il n'y a pas de leadership vraiment. Il n'y a pas de. Tout le monde joue, mais il n'y a pas de. On dirait que c'est une équipe qui joue, mais il n'y a pas d'âme.
Personne ne prend ses responsabilités.
Voilà, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas d'âme. Il n'y a personne qui est là. Voilà, on voit personne. Marquinhos un peu en défense, mais il n'y a personne qui est là. Allez, les gars, allez, on rentre dedans.
Oui, c'est pas suffisant. C'est le meilleur parisien depuis le début de la saison. Et d'ailleurs, c'est grave que ce soit un meilleur parisien, encore une fois.
Oui, je disais que l'effectif était mauvais tout à l'heure, mais il y a un joueur, moi, qui me surprend, que je ne connaissais pas trop avant, c'est Pacho. Franchement, je le trouve plutôt bon et intéressant.
Je suis d'accord, mais le but qu'il prend, qu'on comprend contre Nantes, franchement.
Oui, il se fait enrhumer contre Nantes.
Il se fait enrhumer beaucoup trop facilement.
De la saison, c'est peut-être la seule fois où on le voit.
Franchement, en Ligue des Champions, en tout cas, il est présent.
Ça fait 10 ans qu'il est au club, il en a au moins 50 des comme ça.
Après, je suis d'accord. Sur le début de saison, il est très bon à Pacho.
Et Kimpembe, qui apparemment est apte à jouer, mais qui n'est toujours pas dans le groupe et qui ne sera pas dans le groupe aussi.
Alors que Lucas Hernandez revient et qu'il revient des croisés, c'est ça qui est.
C'est assez.
La différence de traitement, elle est bizarre.
Mais je suis d'accord sur la limite de l'effectif du PSG. Mais pour moi, on ne peut pas se servir d'excuse concernant des matchs contre Nantes et Auxerre. Ce n'est pas possible. Effectif ou pas, l'effectif du PSG, ce sera une limite. Certes, quand tu joues le Bayern, Arsenal, quand tu joues ces équipes-là en Ligue des Champions, oui, l'effectif, il n'est pas construit pour ça. Tu n'es pas au niveau, tu manques de talent à toutes les lignes. Mais en Ligue 1,
mais
ça
non,
doit
mais
passer
c'est pour ça
80%
en soi, ce n'est pas une excuse. Ils gagnent, ils gagnent la plupart de leurs matchs en Ligue 1, il n'y a pas de souci.
Ah, mais là, les deux derniers matchs nuls, c'est quand même.
Effectif limité, ouais. Mais quand tu compares à d'autres effectifs d'Europe du top 8 européen.
Ah mais bien sûr, c'est totalement limité.
Cataclysmique.
Après, on va poursuivre sur l'effectif, parce qu'on dirait que c'est un peu la marque de fabrique de Luis Campos. Ça veut dire qu'il prend des jeunes en développement, mais comme il n'y a pas les leaders qui doivent les accompagner, on a l'impression qu'on n'a que la moitié de l'effectif en fait.
Après, juste pour le défendre rapidement, le mercato, il est vraiment pas simple en ce moment.
Mais apparemment, c'est Luis Enrique qui a refusé des attaquants.
Oui,
tout le monde le dit, ça. Ils l'ont fait de concert, ils ont travaillé ensemble.
Mais le mercato, il est pas si simple. Hein. Trouver un bon gardien, essayer de déroger un très bon gardien, c'est compliqué. Mais de les déroger de leur club, de leur place de titulaire, non, pour moi.
Le géorgien de Valence, là, prêté par Liverpool.
Mamad Archaville.
Ouais, c'est ça. Lui, Diogo Costa, Lucas Chevalier, les trois, je les prends sans hésiter pour virer Donnarumma.
Même un numéro 9, pareil. Un ailier de classe mondiale, pareil. Léao, par exemple, pour prendre Léao comme exemple, je suis pas sûr que lui veuille venir à Paris. Enfin, il y en a plein comme ça qui ne veulent pas forcément venir à Paris.
Mais Nkunku ou Alexander Isak,
excusez-moi,
je pense que c'est prenable.
On va avancer. On va passer à Marseille. Hein, Marseille qui se sont imposés assez aisément 2-0 au Chaudron. Qu'est-ce que tu en penses, Maxence?
Pour moi, c'est le meilleur match de la saison de l'OM, notamment la première mi-temps, où l'adversité était faible. Hein, mais c'est la première fois que j'ai eu cette impression visuelle de l'Olympique de Marseille cette saison. Avec une vraie domination, on aurait dit un match d'entraînement sur la première mi-temps. Et là, on a vu enfin la patte de Zerbi avec une grosse densité au milieu de terrain, entre les lignes, Greenwood, Rabiot qui posaient beaucoup de problèmes. À chaque fois qu'ils étaient touchés, c'était gros danger. Et ils avaient une grosse liberté, des sorties de balles qui étaient hyper propres, parce qu'il n'y avait aucun pressing côté Saint-Etienne, certes. Mais c'est des matchs que l'OM a dû jouer en début de saison et n'a jamais... mené comme ça, on va dire, que ce soit face à Angers, le match nul, face à Auxerre, au Vélodrome. C'était des matchs contre des promus aussi, mais qui étaient catastrophiques. Donc là, je voyais un Saint-Etienne, certes faible, mais en l'écrasant, pas par le score, mais au moins par la manière, en n'étant jamais en danger. Rouli a dû toucher 3 ballons, et c'est très encourageant pour la suite, du moins sur ces petits matchs-là. Et puis la série, là, 9-9, si on nous avait dit ça après Auxerre, que Lens, Monaco, Saint-Té, ça ferait 9-9. C'est une très très belle opération. Et là, il y aura un petit tournant qui se joue samedi à 17h face à Lille, une équipe aussi très en forme. Ouais. Donc ça sera l'occasion pour l'OM d'asseoir sa deuxième place en cas de victoire.
Je pense que beaucoup de choses ont été dites. Lucas, tu partages ta avis?
Je partage totalement son avis. La première mi-temps, on voit vraiment Marseille où ils veulent aller, mais je suis pas étonné. On en avait parlé quand ça allait un petit peu moins bien. Je disais qu'il y avait un processus avec deux Zerbi et que tout allait rentrer dans l'ordre. Au vu de l'effectif de Marseille, on voit notamment le premier but, c'est quand même la classe. Hein. La déviation de Mopé, le but de la frappe de Rabiot, on voit que c'est quand même des vrais joueurs de qualité. Donc moi, je suis pas étonné de revoir Marseille à ce niveau-là. Et je pense qu'ils vont continuer et que tous les outsiders globalement vont monter en puissance. Monaco, on voit qu'ils arrivent à trouver de la régularité. Lyon, ils ont enfin trouvé leur le rythme de croisière. Marseille, ça progresse aussi. Lille, ça se maintient. Je pense que ouais, c'est le wagon est bon cette année en Ligue 1. Et c'est pour ça que, comme tu disais, Ibrahima, on a une Ligue 1 qui est plutôt agréable cette année.
Donc ça va, on n'a pas trop le Paris Saint-Germain détaché complètement et ensuite le reste, parce que là ça se bagarre beaucoup, en tout cas à partir de la seconde place jusqu'à la cinquième, sixième même on peut dire, avec Lyon qui se sont imposés à Angers 3-0, Lille aussi se sont imposés face à Brest à domicile 3-1 avec un doublé de Jonathan David et une passe décisive. Jonathan David qui est le meilleur buteur de la Ligue 1 actuellement avec 11 réalisations. Qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça et de Jonathan David qui est en pleine bourre depuis le début de saison?
Non, bah Jonathan David c'est quand même un gros attaquant de Ligue 1, faut quand même le souligner. C'est pas la première saison, on est sur peut-être sa troisième saison où il est vraiment à un très haut niveau et cette année on le voit encore plus avec la Ligue des Champions. C'est bien pour Lille après...
Sa dernière saison à Lille.
Ah, ouais. Il est libre à la fin de l'année.
Ouais, ouais, sa dernière saison à Lille. Mais apparemment, même. Il va pas. Non, non.
Ah, il est en fin de contrat.
Ouais. Mauvaise affaire pour Lille, ça. Quand même. Ouais. Mais ouais, sinon, non, c'est un bon attaquant. Après, il faut dire aussi qu'il est bien entouré. Moi, j'aime beaucoup Zegrova, par exemple, ouais, qui est un excellent joueur de foot. Franchement, c'est très bon, très juste techniquement. Il y a Benjamin André aussi, qui est très bon milieu de terrain. Enfin, Lille, il y a une bonne équipe. Et surtout, je voulais féliciter Genesio quand même. Parce que c'est un entraîneur dont on s'est pas mal moqué à Lyon. D'ailleurs, j'ai jamais trop compris pourquoi. Mais qui franchement, a plutôt de bons résultats avec Lille pour l'instant. Surtout en Europe, où ça me surprend.
Et avec... Genesio, il a toujours été en Europe. En tout cas, il a
Là, il arrive à enchaîner les deux. C'est ça qui est fort.
Ouais, là, championnat, Europe. Ouais, donc franchement, ça...
Il a peut-être
ça...
l'effectif pour aussi, là.
C'est à souligner. Après Monaco...
Il avait des bonnes équipes à Lyon. Léo qui était là, il te disait que du coup, il y avait des gros résultats en Europe. Mais quand tu vas perdre après à Montpellier ou à Angers, et tu vois, ou même à domicile plutôt, chez toi contre Montpellier ou Angers, et que du coup, bah, tu n'es pas en Ligue des Champions, forcément, on ne peut pas être satisfait de toi. C'est pour ça que Genesio, il avait frustré beaucoup de supporters lyonnais, je crois.
Ouais, à Rennes aussi, il y avait quelques défaites en Europa qui m'avaient un peu laissé sur ma faim. Après, par rapport à l'AS Monaco, bon, ça, c'est une victoire, ils sont dans la continuité. Hein. On verra ce que ça va donner cette semaine. Et pour revenir à l'Olympique de Marseille, je tenais à souligner que j'ai l'impression qu'il y a un 11 type qui se dégage de plus en plus du côté marseillais, avec notamment le retour d'un joueur comme Rongier, par exemple, que moi je trouve très bon. Mm. Il y a aussi Adrien Rabiot qui monte en puissance, oui, qui commence à retrouver ses jambes un petit peu. Et oui, il y a le gardien aussi, Rouli, je le trouve plutôt pas mal. Mm. Et aussi, surtout à la pointe de l'attaque, je pense qu'il a enfin compris qu'il fallait faire un choix. Il a mis Way sur le banc et on l'a vu sur la passe décisive de Mopé pour Rabiot, que je pense que Mopé est nettement supérieur à Wai quand même. En tout cas, même dans le jeu ou dans les déplacements. Ouais, je pense qu'il est nettement supérieur.
En tout cas, ses qualités, elles ont l'air de bien coller au jeu que De Zerbi veut.
Ouais, c'est sûr, ça a plus de sens de voir titulaire.
Cherki encore décisif, hein, Cherki buteur, avec un Mikotadze aussi qui est rentré en jeu et qui fait la différence aussi. Voilà, Cherki, je pense qu'on attendait beaucoup de lui. Jusqu'à là, je pense qu'il remplit l'affiche, en tout cas. Chaque fois, il est décisif, ou à chaque fois, en tout cas, il est dans les occasions créées. Et là, franchement, passe décisif, plus but ce week-end. Mikotadze, maintenant, qui commence à être en confiance aussi, qui rentre en jeu et qui est décisif avec un super but. Hein, en ce moment, il nous régale vraiment. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alexandre, de cette équipe de Lyon?
Bah, pareil, comme disait Lucas, je trouve ça bien qu'ils puissent retrouver un bon rythme de croisière, parce que Lyon, pour le coup, ils ont un effectif qui est plutôt cohérent. Et je suis content, moi, pour Mikotadze, parce qu'on sait qu'il a eu des soucis extrasportifs. Et je suis content que là, il puisse rentrer, marquer, pourquoi pas s'imposer... en attaque, parce qu'en ce moment la Cazette c'est un peu moins bien. Et mais sinon Lyon, voilà, dans le jeu c'est plutôt agréable à regarder, je trouve. Et surtout que gagner à Angers 3-0 pour Lyon, c'est j'ai envie de dire que c'est bien, parce que ils perdaient souvent des points contre des équipes comme ça, des petites équipes à l'extérieur, des matchs bourbiers, etc. Donc là je trouve ça vraiment bien. Et puis comme tu l'as dit, Ryan Cherki qui continue de semaine en semaine de prouver que... En fait, Ryan Cherki, voilà, pour moi, c'est bientôt l'équipe de France, hein, j'ai envie de dire.
L'équipe
c'est...
A.
L'équipe... Oui, oui, l'équipe A. Parce que là,
attention, fait, ouais, il a d'autres propositions sur la table, hein, les Fenech notamment.
C'est pour ça qu'il faut que Deschamps il le sécurise rapidement, parce qu'en plus, là, il y aura des matchs, je pense, ça y a des matchs amicaux en mars, je crois. Ah non, c'est la...
C'est les demi de la Ligue des Nations.
Ouais, c'est mort, là. Mais enfin, voilà, parce que c'est un profil qu'on n'a pas en équipe de France, Ryan Cherki. Et voilà, moi, je trouve très intéressant.
Avec l'absence d'Antoine Griezmann, en tout cas, voilà. On pense que ça peut faire du bien à l'équipe Française, on va rappeler le classement. Paris Saint-Germain, premier avec 34 points. Deuxième, Marseille avec 29 points. Au coude à coude avec Monaco, 29 points. Lille, quatrième avec 26 points. L'OL avec 25 points. Et Nice qui complète les places européennes avec 23 points. Et en bas, ça se bataille un peu entre Le Havre, Saint-Etienne et Angers. Voilà, tout ça. Et même Strasbourg et Nantes, hein, ça, et Rennes aussi, ça se tient à 2 points. Voilà, entre le 17e et le 12e, ça se tient à 2 petits points. Et Montpellier, qui n'y arrive toujours pas et qui sont lanterne rouge avec 8 points et 36 buts encaissés. Montpellier, je pense qu'on n'a pas besoin de faire le tour, hein, ça, voilà, avec Gassé.
Quelle erreur de Benjamin Lecomte ce week-end.
Sur le deuxième, là.
But, ah, ouais, elle est horrible, celle-ci.
Mais au-delà de ça, c'est un très bon signe pour la Ligue 1 d'avoir le top 5 qui est comme ça. PSG, Lyon, Monaco, Marseille, Lille. C'est quand même synonyme, je pense, d'un championnat en bonne santé. Quand tes gros sont là-haut, bah, c'est ce qu'on voit en Espagne, c'est ce qu'on voit voilà,
en Première Europe, Ligue. En plus, ils sont performants.
En Europe, ils sont performants. Et voilà, t'as beaucoup d'équipes qui sont à 2 points par match ou dans ces eaux-là. Monaco, Marseille, PSG, ils sont. Lyon-Lille ne doivent pas être loin à quelques détails près. Ouais. Mais c'est très, très bon signe, je pense, pour le championnat de France que ces locomotives soient au rendez-vous.
Yes.
Et pour parler on va... du bas de tableau, il faut quand même préciser, excuse-moi de te couper, qu'il y a 2 points d'écart entre le 17e et le 12e quand même.
T'écoutes pas trop bien, t'écoutes pas trop, Ibrahima, je l'ai précisé, oui.
Je l'ai précisé
qu'il y avait 2 points qui séparaient, jusqu'à Rennes, qui séparaient entre ces équipes-là. Mais vaut mieux le rappeler quand même. On va enchaîner avec une petite virgule, juste avant d'enchaîner avec la Ligue des Champions, le Real Madrid, qui iront à l'Atalanta, et ensuite les autres, le Paris Saint-Germain, qui iront défier Salzbourg, Lille, qui joueront à domicile face à Sturm Graz, et bien sûr, les Monégas, qui iront défier les Gunners. À tout de suite. Ligue des Champions, le Real Madrid, qui iront à l'Atalanta avec l'obligation de ramener les 3 points à la maison avec un retour de Vinicius et de Rodrigo. C'est simple, hein, franchement, le Real Madrid, ils ont une mission. Voilà, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et attention, parce que l'Atalanta est en pleine bourre et son premier de Serie A. Et ça va pas être tâche facile, hein, même si on repense à la Super Coupe qui s'est jouée dernièrement. Le Real Madrid l'a emporté 3-1, il me semble.
Ouais.
Et.
Mais je pense que ouais, l'Atalanta, c'est une des plus belles équipes d'Europe actuellement. Ouais. C'est très, très fort. Physiquement, c'est en place plus que jamais. De toute façon, les équipes de Gasperini, c'est souvent une intensité assez dingue. Il va falloir que le Real soit prêt à répondre à ça, notamment avec les retours de blessures. On ne sait pas à quel point les mecs sont remis. Et voilà, on a vu cette saison que les matchs où le Real s'est fait rentrer dedans au niveau de l'intensité, ça a été souvent difficile, que ce soit Stuttgart, que ce soit... Dortmund, Liverpool, les équipes avec une grosse densité physique, beaucoup de courses.
La preuve avec Bilbao.
Aussi également, mardi. Ouais, également Bilbao pour les derniers en date. Donc gros test face à l'Atalanta. Et pour moi, si le Real arrive à battre cette équipe, ce sera une première grosse victoire de cette saison-là. Et ça voudra dire quelque chose.
Tu penses que la grosse victoire, c'est maintenant Dortmund, tout ça, c'était pas... assez haut.
Dortmund, vu la prestation, en fait, sans s'arrêter au score, mais vu la prestation, le fait que tu sois baladé pendant une heure, que ce soit Nuri Sahin qui te donne le match avec son changement quand il sort un ailier pour mettre un cinquième défenseur à 2-0, je crois, enfin, ça n'a aucun sens. Après, oui, il y avait une fin de match assez dingue avec un triplé de Vinicius, etc. Mais je mets plus ça sur un exploit individuel et des hommes clés qui ont été là au bon moment et pas sur une vraie prestation collective aboutie. Et je pense que pour battre l'Atalanta, il va falloir... une prestation collective de haut niveau de la part de toute l'équipe.
Merci Maxence. Qu'est-ce que t'en penses toi, Lucas?
L'Atalanta, tout simplement, c'est les leaders de Serie A. Pendant que Naples marque le pas, eux, ils écrasent tout sur leur passage en Italie. Donc effectivement, je pense aussi que c'est le premier gros test du Real. Après, les retours de Vinicius et Rodrigo vont quand même leur faire beaucoup de bien. Ça va être un beau match. Et bizarrement, enfin, on a une journée avec pas mal de chocs. Hein. On a quand même Bayer Leverkusen, Inter Milan. Mercredi.
Dortmund-Barça.
Ouais, c'est ça. Mercredi, Dortmund-Barça, Juventus-City, etc. Donc, on a quand même quelques chocs pour cette journée. Ça va être intéressant à suivre.
Monaco-Arsenal, non ?
Monaco-Arsenal, on peut le citer aussi. Ouais, très beau match. On verra si Monaco arrive à suivre le rythme. Mais voilà, là, on a quand même une belle. C'est pas toutes les semaines qu'on a des matchs de Ligue des Champions comme ça, avec cette formule un peu bizarre qui est quand même des équipes de 3e zone européenne qui se retrouvent en Ligue des Champions. Donc là, ça va être cool.
On espère en tout cas. Et toi, Ibrahima, qu'est-ce que tu en penses du Real Madrid, en tout cas du match face à l'Atalanta?
Bah, le Real Madrid, moi, déjà, par rapport à ce qu'il propose depuis le début de saison, je suis pas assez... c'est pas très beau à voir. C'est souvent des victoires assez poussives. Et face au gros, ça perd tout le temps cette année. Il n'y a pas eu de grosses victoires. Ça perd le Classico. Contre Liverpool, ils se font écraser, selon moi. Contre Dortmund, c'est, comme l'a dit Lucas, c'est vraiment Maxence plutôt, c'est vraiment des exploits individuels. C'est-à-dire qu'on sent que Vinicius...
Quand ça gagne, on dit exploit individuel. Quand ça perd, on dit ils se font écraser.
Non, mais faut regarder le match.
Contre
Dortmund,
c'est
pas
regarder
les matchs. Non, mais faut regarder les matchs.
Sérieusement, je regarde tous les matchs. On peut pas me dire que je regarde pas tous les matchs.
Liverpool était au-dessus, c'est clair.
Oui, comme le Real était au-dessus de Dortmund.
Ah non.
Non.
Pendant une heure, Dortmund, il mène 2-0, il domine le match.
Il prenait le bouillon.
Attendez, pas tous en même temps, s'il vous plaît. On n'a pas vu tous le même match alors.
Il prenait le bouillon.
Je te parle pas de la dernière demi-heure. Hein. Mais pendant une heure, donc deux tiers du match quand même, t'es dominé. T'es mené 2-0 au Bernabeu face à une équipe qui te met le feu.
Et même face à Lille, Lille a mis un petit peu de rythme, le Real a perdu.
Oui,
au final, 1-0 sur penalty. Le Real a eu le ballon la plupart du temps dans le match, mais finalement, ça gagne pas. Donc ouais, non, cette année, on sent plus la domination qu'ils avaient la saison passée. Je sais pas si c'est dû à l'arrivée de Mbappé ou à quelques changements tactiques ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je pense que face à l'Atalanta, ce sera pas évident du tout. Et personnellement, je vois même l'Atalanta s'imposer, moi, parce que la performance de ce week-end m'a pas forcément rassuré. Celle de la semaine face à Bilbao non plus, encore moins même.
Donc, même avec un retour de Vinicius pour toi.
Bah, retour de blessure, il sera pas forcément à 100%. Il y a le joueur sur qui on devait compter, il est toujours pas bon. Donc
Puis on a vu le Real perdre avec Vinicius, hein, notamment face au Milan cette saison en Milan, Ligue des Champions.
C'était cataclysmique.
Il est très bon et puis c'est le meilleur joueur de cette équipe, enfin, avec Bellingham pour moi, mais au niveau stats, c'est le meilleur joueur et celui qui peut te sortir de situations un peu délicates, mais collectivement, il ne va pas tout changer non plus tout seul.
Et la blessure d'un joueur comme Carvajal, je suis désolé, mais ça se ressent énormément.
Ah,
énormément. Lucas Vázquez et Carvajal, c'est pas du tout le même niveau, c'est pas le même. Ça chamboule en effectif. Ferland Mendy est blessé aussi.
Camavinga aussi, non?
Mais même la défense centrale, Camavinga, David Alaba et Militao.
Ça fait beaucoup de blessés.
Ce qui fait qu'il est obligé de mettre le jeune Asensio.
Ouais. Qui est plutôt bon.
Mais ouais, contre Gérone, il l'a pas fait jouer Asensio, il me semble. Il l'a fait jouer.
Il a mis Tchouaméni.
Il a mis Tchouaméni. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que le problème du Real Madrid, bon, au-delà des blessures, faut le souligner quand même, parce qu'il y a des grosses blessures. En fait, moi j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il met Modric, le Real, il joue toujours mieux. Toujours mieux. À chaque fois qu'il met Modric, le Real, il joue mieux. Parce qu'en fait, Modric, encore, c'est toujours la même chose, il a un profil que d'autres joueurs n'ont pas.
C'est-à-dire un génie. Que, ça passe sur le but de Mbappé.
En plus de ça, c'est un génie. Déjà, quand ton milieu de terrain, c'est Tchouaméni, Valverde, Camavinga.
Pas très créatif tout ça. Hein.
Camavinga, c'est plus compliqué de trouver des passes clés, de trouver des extérieurs du pied, des choses que les défenseurs ne voient pas. Et Modric, à chaque fois qu'il fait ses rentrées, de par la passe, il délivre. Parce que bon, porter du ballon, maintenant Modric, il le fait un peu moins. Mais de par la passe, Modric, il délivre toujours des caviars à ses coéquipiers. Donc moi, si Carlo Ancelotti doit changer quelque chose, c'est pour moi faire commencer Modric, parce que peut-être qu'il ne fera pas tout le temps 90 minutes.
Ah bah ouais.
Pour moi, il devrait vraiment faire commencer Modric. Il faut aussi qu'il s'appuie, qu'il continue de donner de la continuité à un joueur comme Brahim Diaz. Et le but aussi d'Arda Güler, ça va lui faire du bien, Arda Güler, parce que bon, ça reste quand même un bon joueur, donc ça va lui faire du bien. Et pour terminer, Bellingham aussi, son match contre Gérone, il est quand même très bon. Il fait une passe incroyable.
Ça fait un moment même qu'il enchaîne. Hein.
Ouais, il enchaîne plutôt pas mal. Lui, au moins, il répond présent comparé à d'autres. Je ne citerai personne. Mais en tout cas, voilà. Voilà, le Real Madrid, mine de rien, après tout ce que j'ai dit, je les vois mal gagner à l'Atalanta.
Après, l'Atalanta ne joue pas sa peau sur ce match-là. Ils
non,
sont,
mais
ils
t'inquiète
sont
pas qu'ils
aiment.
Domicile, ouais,
ils donneront tout, c'est sûr. Voilà.
C'est ça. Après, ça n'oubliez pas, peut-être qu'ils ont encore la petite rancœur de la Super Coupe, mais n'oubliez pas que l'Atalanta sont premiers de Serie A. Est-ce qu'il ne va pas essayer de se concentrer aussi sur la Serie A? On sait que des équipes font ça, mais lui, il veut jouer en tout cas la Ligue des Champions. C'est un truc où tu ne peux pas faire tourner. Tu es obligé de la jouer à fond. Et c'est ce qu'il veut faire en tout cas. Mais le Real Madrid, on sait bien, on ne peut jamais les enterrer.
Mais dans
même s'ils vont
formule.
Très très mal. Même, voilà, et comme un certain Mbappé le disait, c'est dans la deuxième partie de saison qu'on attend le plus le Real, et c'est là où tu peux sauver ta saison, vraiment en étant décisif dans les gros matchs, dans les grandes rencontres. Et Il le disait là même avec le penalty encore loupé face à Bilbao, on y reviendra. Et il le dit clairement, il dit que il faut il s'excuse de l'erreur et qu'il faudra être décisif dans les gros matchs. Et c'est ce que
pour connaître les gros matchs, faut faire le taf hein, pour l'instant c'est quand même. Bah oui.
Voilà, ils sont pour l'instant ils sont dos au mur.
S'ils perdent demain, ça devient compliqué.
Après,
hein,
je crois qu'ils jouent Brest et un
ils ont deux derniers matchs plus faciles.
Brest, Salzbourg,
ça devrait le faire quand même. Même si demain tu gagnes pas, ça va, tu dois prendre 3 points sur Brest ou Salzbourg.
Surtout que, en plus, je sais pas si vous avez vu le match contre Gérone.
Oui.
Mais bon, après, avec des si, on peut tout le temps tout refaire. Mais je veux dire, le début de match, quand même, ils s'en sortent plutôt pas mal.
Oui, c'est les 20 premières minutes.
Bah, oui, après, le bouillon qu'ils mettent avec Brian Hill et
Aspria et Van de Beek. Ouais,
et Van de Beek, franchement, ça joue. Parce que Gérone jouait très très bien. Après, forcément. Ouais. Le Real Madrid après a marqué puis a continué de maîtriser.
Même avant de marquer, ils ont commencé à maîtriser. Oui, ça a duré vraiment 15-20
minutes.
Après les 70 autres, Gérone était méconnaissable.
Ouais, après,
vraiment, le match,
ils ont totalement lâché. Moi non plus, j'ai rien compris. Parce que quand t'as des joueurs de football comme ça, je comprends pas. Mais bon, après, voilà, belle victoire du Real Madrid qui, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais recolle en Liga.
Qui recolle et qui était censé recoller déjà bien avant ou même leur passer devant. Le Cholismo n'est pas mort. L'Atlético de Madrid qui vont aussi jouer en Ligue des Champions. Il y a le Paris Saint-Germain qui iront défier Salzbourg. Bon, on a parlé vaguement un peu du Paris Saint-Germain. Toi, Ibrahim, t'es pas convaincu?
Non, je suis pas convaincu par cette équipe. Et franchement, demain, logiquement, ça devrait le faire pour Paris Saint-Germain. Mais s'il y a un match nul ou... Non, défaite peut-être pas, mais s'il y a match nul du Paris Saint-Germain, ça m'étonnerait pas parce que je sais pas si vous vous souvenez du match face à Eindhoven, mais c'est criant quand même le manque d'efficacité, hein. c'est chaud hein, à domicile face au PSV qui était venu clairement pour jouer le match nul, hein, ça se ressentait, ils étaient pas venus pour chercher les 3 points. Et tu te retrouves mené au score sur une action du PSV, tu galères à revenir, c'est compliqué, même la victoire face à Gérone, c'est quoi? C'est 1-0 avec un vieux but
contre son camp,
Mendes,
en dernière minute.
Une vieille frappe.
Ouais, dans les dernières
minutes.
Dans
les arrêts de jeu, limite.
Parce que le gardien, il se trouve.
Gazaniga, ouais. Donc, non, franchement, avec Dembélé n'est pas là. Quoi qu'on en dise, aujourd'hui, sur le front de l'attaque, ça reste l'un des meilleurs quand même. Donc, je sais pas, déjà, je me tâte de savoir avec quelle composition il va partir.
Ils annoncent Lee Kang-in, enfin, le Parisien annonce Lee Kang-in ailier droit.
Bah, en fait.
La logique.
Oui, comme ce qu'il a tenté là contre Auxerre, en fait, la même compo, il repartirait sur cette compo-là. Et d'où pourquoi Dembélé n'était pas titulaire aussi, c'est qu'il voulait tester cette compo-là. Bah, il l'a testé.
Même compo offensive.
La même compo. Non,
il va quand même enlever Fabien Ruiz de cette équipe et mettre Jean-Denis au milieu.
Non, apparemment, il va mettre cette équipe-là. En tout cas, s'il l'a mis, c'était pour ça. En tout cas, c'est ce que les médias disaient.
Donc, il a été satisfait de.
Oui, mais il l'a dit. Il a dit que voilà que ça n'avait pas tourné. Enfin, en gros, que ça n'avait pas trop tourné en sa faveur. Mais qu'il était satisfait du contenu.
Ouais,
il
comprend pas pourquoi il marque pas.
C'est du Luis Enrique.
Mais juste, moi, je vais juste. En fait, je le vois pas trop gagner Paris, parce qu'en fait.
À Salzbourg.
Ouais. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait.
Pas trop.
Non, mais c'est parce qu'en fait, je les vois incapables de proposer autre chose en fait. J'ai l'impression je les vois pas avoir le déclic de se dire ça y est, alors là. Barcola, il va marquer, puis après... Ou s'ils vont gagner, ça va être un 1-0, mais vraiment à l'arrache, quoi. Parce que je les vois incapables de proposer
autre chose. Donc toi, tu vois pas Manita, là-bas?
Pas du tout. Comme si c'était des joueurs un peu qui étaient sans idée, qui étaient bridés, comme a dit Lucas.
Le PSG de 2022, oui.
Oui,
mais
le PSG
cette
2022,
année, les deux années passées.
Non, non, bah, attends, pas le PSG 2022, parce que c'était de la faute de Messi, tout ça. C'était parce qu'il marchait, il marchait tout le temps.
Après Salzbourg, on parle d'une équipe qui, en Ligue Champion, a pris 0-4 face à Brest, 0-5 face à Sturmgraz quelques jours après en championnat.
Je sais, mais Maxence,
0-2 Dynamo Zagreb, 5-0 Leverkusen. C'est quand même un paillasson en Ligue des Champions. Donc là, si tu gagnes pas, c'est un scandale.
Non, mais je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit. Salzbourg est faible en Ligue des Champions, mais le truc, c'est que Paris. Bah,
ouais,
c'est pas comme
en fait,
si,
on dirait que le, je suis d'accord avec Alex, on dirait que le message du coach passe plus. Et en fait, à ce moment-là, tu peux, quelle que soit l'équipe en face, t'as l'impression qu'ils vont que ça, y a pas d'idée que
et tu perds Dembélé, les défenseurs.
Dembélé, c'est le seul qui crée du décalage. Ouais,
comme a dit Saliba, les défenseurs, quand tu vois que t'as pas Dembélé, quoi qu'on dise de Dembélé, bah t'es quand même déjà un peu soulagé. Tu sais que sur le banc, t'as Asensio et Kolo Muani qui vont rentrer.
Je pense qu'il peut y avoir deux physionomies de match. Si ça, on part sur un match encore casse-pipe comme au CR, il y a 0-0, 50e, 60e,
les mecs se rendent
fous tout seuls. Mais si tu marques tôt, ça peut être l'avalanche. Parce qu'en face,
il faut le mettre le but. Ouais, ils ne marquent pas sur coup de pied arrêté, ils n'arrivent pas à faire des décalages. Ça veut dire, à part un but casquette ou un exploit individuel.
Je me dis que si Elkan Trio, Kamori Doumbia aurait su en mettre 4, Barcola va réussir à en mettre la moitié d'un quand même.
Non, mais les joueurs de Brest, ils sont débridés. Quoi.
Ça joue au foot, c'est ça, exactement.
Ça joue
Paris, il y a un problème.
Et ça joue sans pression aussi.
Franchement, on ne les attend pas.
Là, retiens ici, demain 0-0.
Moi, je pense 4-0.
Moi, j'ai une victoire, j'ai entre vous deux, moi j'ai une victoire moche. Un petit 2-1 ou un 1-0 sans pêche.
Moi, je vois un vieux but du dos, je sais pas, un truc tout pourri.
Un attaquant, pour vous, un attaquant
non,
va.
Non, mais non,
c'est Ramos demain. C'est Hakimi qui va marquer si jamais il y a un marqueur.
Ouais, moi, je pense que Ramos ou Barcola vont débloquer leur compteur.
Un ça, vieux cafouillage dans la surface, un vieux but.
C'est un match pour un 9, ça, à l'extérieur, sous moins 8, là, c'est.
On verra, on en reparlera en tout cas. Lille qui joueront à domicile face à Sturm Graz. Bon, attention, Sturm Graz qui ont mis 5-0 à Salzbourg, c'est ce qu'on disait, mais Lille ne devrait pas avoir trop de difficultés à se défaire de cette équipe normalement à domicile. Après, attention, hein, les matchs pièges, souvent, on ne les voit pas arriver, tu te fais surprendre, c'est des équipes, ils arrivent, ils ont la dalle. Attention.
Match piège parce que je pense que Lille se voyait pas arriver à ce moment-là avec autant de points en fait. Donc ça peut être juste une décompression mentale. Mais sur ce que montre Lille depuis le début de saison, je suis plutôt confiant. Je l'avais dit avant le match là face à Bologne, ouais. C'est ça, il y a deux semaines, où je me disais que si Lille gagnait là, il y aurait vraiment un message envoyé pour moi où on est surmotivé pour les gros matchs évidemment, mais que même les matchs de moins grande envergure, les matchs moins prestigieux entre guillemets, on va les gagner. Bah pour moi, Lille doit faire la même chose pour ce match-là. Ouais, je les vois bien aller s'imposer sans. Encore une fois, sans être flamboyant, parce que là, les matchs vont commencer à s'accumuler. On arrive en décembre et la fatigue va arriver. Mais je pense que lui, il a tout pour, à part une vraie décompression mentale, qui ne serait même pas si fâcheuse, puisque les points, ils les ont. Ils sont quasiment qualifiés pour au moins les 16e. Mais après, là, s'ils le font, ils deviennent même très sérieux pour les 8e. Donc, je pense que c'est du bonus. C'est à eux de faire le taf, ouais.
Ah, mais il y a très gros croc à faire pour le top 8, là, parce que t'es 11e ou 12e à égalité de points avec le 7e. Donc en gagnant, tu te places comme un candidat très crédible aux 8 premières places. Il y aura un match contre Liverpool qui risque d'être difficile quand même. Mais bon, sortie de Boxing Day face à un Liverpool déjà qualifié, pourquoi pas. Et puis, Lille en a fait d'autres. Et tu termines avec Feyenoord, il y a match, il y a de quoi faire. Donc franchement, Lille dans les 8 premiers, ça doit être un objectif pour le club. Et ça facilitera leur hiver en ayant deux matchs en moins à jouer en Ligue des Champions.
Et aussi l'enveloppe salariale. Hein,
aussi.
Voilà, ça va.
C'est vrai. Chaque place compte. Ouais. Chaque place compte.
Oui, bien sûr. Et Ibrahima, toi, qu'est-ce que t'en penses avec les Monégas qui iront à Arsenal? Tu penses qu'ils ont une petite chance de les bousculer là-bas, de faire quelque chose?
Ouais, je les ai trouvés fatigués, moi, ce week-end, les joueurs d'Arsenal. Je sais pas pourquoi. J'avais l'impression qu'ils manquaient de rythme ou quoi que ce soit. Maintenant, après, je pense que pour Arsenal, la priorité, ça reste la PL, hein, même s'ils sont distancés. Quoi qu'on en dise, la priorité pour eux, c'est l'appel. Mais ouais, je vois bien Monaco. Si Monaco s'impose, je serais pas surpris, franchement. Ouais, je vois bien une victoire de Monaco.
À l'Emirates Stadium.
Ouais, à l'Emirates, je vois bien une victoire de Monaco. Je peux miser sur ça.
Et bah,
moi, je partage son avis.
À la cote, elle est à 10, les gars. Mettez un billet. Hein.
Ouais. La dernière fois, on se rappelle, 3-1, Geoffrey Kondogbia. Ça commence à remonter.
Anthony Martial et,
Et Ferreira Carrasco. C'était un match de fou. Mais ouais, je suis d'accord avec ce que dit Brahima, parce qu'en fait Monaco c'est quand même une équipe qui est cohérente, qui propose, qui est dans la continuité, qui propose chaque week-end le même type de match, etc., avec des joueurs, comme je disais, qui sont en confiance. Et franchement, quand tu as des individualités en confiance, je me dis que y a pas de quoi avoir peur. Et franchement, pourquoi pas aller chercher un résultat Arsenal. Même le match nul est un bon résultat Arsenal. Donc en vrai, moi, je suis d'accord avec Brahima. Je les vois bien faire quelque chose.
Juste un petit souci, c'est avec l'attaquant. Entre Mbolo, Ilenikena et...
Bah, Mbolo a marqué.
Et Balogun.
Pourquoi pas mettre Mbolo?
Mbolo a marqué ce week-end.
Moi, je pense que c'est Mbolo qui va jouer.
Des trois, je sais pas qui est le meilleur, franchement.
Bah, il y en a un qui a 17 ans et les autres qui sont des attaquants confirmés.
Ah, j'oublie.
Mais non, Monaco, justement, le truc, c'est qu'en défense, ils se sont trouvés. Kerrer, on a l'impression qu'il s'est enfin trouvé. Et pour moi, Singo, c'est juste le meilleur défenseur de Ligue 1.
Quand tu vois Zakaria, que... il s'est blessé.
Non, mais il joue 6, Zakaria. C'est pour aider qu'il vient en défense. Mais vraiment...
Non, il s'était blessé avant ce week-end. Donc, je ne sais pas s'il va jouer.
Ouais. Non, mais t'as un Golovin, t'as Cliff, Ben Seguir qui sont là.
Non, l'équipe elle s'est trouvée. Alors que tu vois, on parlait de Paris, t'as l'impression qu'au-delà de l'attaque, ils peuvent prendre un but sur chaque... que ce soit contre le PSV, contre Nantes... t'as l'impression, ou contre l'Atlético, t'as l'impression qu'ils peuvent prendre un but à chaque moment. Monaco, eux, ils ont une assise défensive, collectivement, ils se sont trouvés, et t'as l'impression que c'est assez solide. Donc même quand ils ont un petit coup de mou, parce qu'ils n'ont pas été flamboyants, je trouve, ce week-end, bah, ils arrivent à gagner le match, ils ratent des occasions, le but sur coup de pied arrêté, un but un peu de raccro bizarre, et ça le fait.
On va enchaîner avec le Barça qui iront à Dortmund. Qu'est-ce que vous pensez le Barça qui vont se dresser face au mur jaune, vous pensez que...
Bon test.
Dortmund qui sont très forts à domicile, qui sont très bons cette saison à domicile. Attention.
Surtout pour le Barça en ce moment-là, qui est dans un petit creux de performance, qui ne s'est pas ressenti en Ligue des Champions parce qu'ils ont joué Brest au dernier match et que ça s'est bien passé. Mais en Liga, on voit que c'est moins bien. Donc oui, après on a un Dortmund qui est quand même très irrégulier. Bon, en témoigne le match contre le Real dont on parlait tout à l'heure, où ils font 60 minutes de haut niveau, 2-0. D'ailleurs, ils en prennent 5 en une demi-heure. Enfin, même en Bundesliga, c'est l'équipe la plus illisible, je trouve, qu'on ait, enfin, une des équipes les plus illisibles en Europe. Donc à voir ce que le Barça va pouvoir faire. Mais je crois que la qualif, elle est sécurisée quasiment pour eux déjà. Mais oui, c'est un bon test. Et c'est le genre de match où globalement, on devrait voir du football. Dortmund-Barça, ça déçoit rarement.
On espère en tout cas. Un petit mot à rajouter, Alexandre ?
Oui, parce que Antifli connaît bien le championnat allemand. Donc déjà, Barça part avec un petit avantage.
Lévy, qui a retrouvé un ancien club aussi. Encore, il a eu le Bayern et là il a Dortmund aussi, deux anciens clubs.
J'avais bien aimé le classiqueur. Je sais pas si vous l'avez vu.
Oui.
J'adore ce genre de match parce que vraiment il y a une intensité de malade mental. Et franchement, bonne performance de Dortmund. Mais si je devais mettre un billet, je le mettrais quand même sur l'FC Barcelone parce que...
Attention avec les billets. On rappelle que les paris, c'est doucement et c'est à partir de 18 ans.
Bien sûr. À consommer avec modération. Mais surtout ne pas consommer tout court, en fait.
Voilà.
Mais en tout cas, le FC Barcelone. Si je devais mettre ma maison, je mettrais sur l'FC Barcelone.
Ne jamais faire. Ne jamais rien mettre dessus, sur rien du tout.
C'est un élément
voilà.
De langage.
Vous avez compris.
Non, parce que le problème du Barça, c'est aussi la...
Donc pour toi, le Barça gagne.
Oui, le Barça va gagner. Le Barça va gagner parce que ils ont une assise collective qui est supérieure à celle de Dortmund.
Donc Guirassy,
non. Guitens, il va pas leur mettre une fusée contre Guitens.
Il va pas leur faire une vie.
Il suffit que Pedri et Casado soient dans un bon jour, et je vous assure que le milieu de terrain de Dortmund ne voit pas le jour. Après, le problème, c'est que c'est sûr que les dernières performances du Barça, elles sont complètement catastrophiques. Vraiment catastrophique.
Avec les choix aussi, j'ai l'impression, parce qu'il y a eu des choix aussi discutables durant le dernier match. Lewandowski qui sort à la 70e.
Il pensait à Dortmund.
Le match n'est pas plié. Tu sais que tu as une Liga derrière. Le match n'est pas plié.
On a beaucoup critiqué Hansi Flick au début de saison parce qu'il faisait pas tourner du tout. Il y a Yamal qui s'est blessé. Ils ont pas un effectif qui est si large que ça.
Non, il est pas si large.
Moi, à sa place, Lewandowski, je le fais pas jouer non plus tous les matchs. Le mec a quand même.
Non, mais parce que le match d'avant, il avait pas joué Lewandowski.
Ouais, c'est vrai.
Du tout. C'est pour ça que.
Non, mais c'est une question de fatigue. Les joueurs, ils sont fatigués. Ça se ressent, ça se voit. Parce que, comme tu as dit, Maxence, il n'y a pas une profondeur d'effectif qui est.
Surtout devant, au milieu, ça va. Surtout
Ferran Torres, quand même.
Pitié.
Je crois que c'est lui le problème, justement.
Il marque dernièrement, il marque.
Bah oui.
Mais moi, je peux vous la donner, la compo déjà. Ce sera Baldé, Inigo Martinez, Koubarsi, Koundé, comme d'habitude, avec Iñaki Peña, qui est très bon. Il faut le souligner, Iñaki Peña, il est très très bon. Au milieu, ce sera Pedri, Casado, Olmo. Et puis, en attaque, comme d'habitude, Rafinha, Yamal et Lewandowski. Il ne va pas prendre de risques.
Je pense que De Jong titulaire, ça n'arrivera plus.
Pitié.
Il ne faut plus que ça arrive pour le Barça.
Non, il ne faut plus que ça arrive.
Carrément, c'est compliqué.
C'est le deuxième salaire de l'effectif, je crois.
C'est le deuxième salaire de l'effectif. Mais
là, il est dans le trou. Là.
C'est vrai qu'il ne sait plus jouer au foot.
Non.
Il est bien revenu. Il a fait un bon match, je crois, la semaine dernière, quand vous avez mis 5 buts. Il revient, il met buts, passes décisives.
Parce qu'il joue en chaussons contre Mallorca. C'était tranquille. Mais là, il rentre, il fait une faute stupide. Je ne sais pas si vous avez vu.
Le péno.
Le penalty. Et ensuite, même sur le terrain, il est méconnaissable, Frenkie de Jong. C'est pour ça qu'il ne va pas se prendre la tête. Il faut qu'il reprenne un rythme aussi. Parce qu'il a été blessé pendant très longtemps. Oui. C'est un joueur qui est ultra blessé, qui est très irrégulier. Et comme Daniel Mo aussi, j'ai envie de dire, c'est un joueur qui est très irrégulier, qui est blessé, qui a des petites blessures toutes les 3 semaines. Mais c'est un joueur différentiel, Daniel Mo.
On va enchaîner, Gérone. Liverpool qui iront défier Gérone. Je pense qu'on n'a pas trop à s'en faire pour les Reds. Un choc, Bayer Leverkusen-Inter. C'est un beau match, ça se remet.
Ça va être pas mal.
Beau match. Après, l'Inter, ils font beaucoup tourner en Ligue des Champions.
Mais l'Inter,
c'est
sont très bons.
Qui s'est pris zéro but.
Oui, ouais, zéro but. Mais Manchester City, ils ont battu Manchester City, ils ont battu Arsenal.
Mais pour le coup, ils arrivent bien à gérer ces deux compétitions. Et
ils
ne
sont
faire,
pas premiers en Serie A. Bon, avec
ouais,
un match en retard, ils sont troisième.
Ils sont en place. Mais un Thuram, par exemple, je crois qu'il a démarré un seul match avec des champions depuis le début de la saison, souvent remplaçant. Et ça tourne pas mal avec Taremi, Lautaro. Voilà. Donc c'est assez intéressant, je trouve, cette façon de... Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui vont se positionner là-dessus sur les prochaines années avec la Coupe du Monde des clubs, etc. Toutes ces compétitions qui se multiplient. Je pense que la mode d'avoir un effectif à 20, 22, 23 joueurs qu'on peut faire tourner un peu interchangeable comme ça, ça va avec 15, 16 titulaires potentiels, ça va se démocratiser, on va dire.
Quels sont vos pronostics, Ibrahima ? Bayer Leverkusen, Inter, tu penses que Bayer Leverkusen vont ouvrir le compteur
Moi j'en suis sûr en tout cas.
De l'Inter.
Je suis sûr qu'ils vont marquer en tout cas. Ah ouais. Pas forcément gagner, mais je
attention,
suis sûr.
Attention, Boniface qui n'est pas là et Patrick Schick aussi qui est blessé. Du coup, ils ont Wirt.
T'as vu le but qu'il a mis ce week-end?
C'est incroyable.
Mais la défense de l'Inter Milan, c'est quelque chose. Bissek énorme.
Bissek, ouais. Grosse révélation.
De Vrij, Bastoni.
De Vrij, Bastoni.
De Vrij en haut, Di Marco qui descend.
Mais c'est pas sûr qu'il joue là. Même Taremi, l'ancien
attaquant. Même Sommer au goal.
Très bon gardien.
Ils vont récupérer Donnarumma en fin d'année. Ça
même
sera plus la même
terrain, Chalhanoglu, ça reste solide, quoi qu'on en dise.
Ouais. Non, Chalhanoglu, il refait une deuxième carrière. Parce que même à Milan, ces deux premières années, il est méconnaissable. Ouais. Et je sais
sur
pas,
la fin, ça va
sur
mieux.
Sur la dernière saison, ça va mieux. Et là, depuis qu'il est à l'Inter, un peu comme Mkhitaryan, on dirait qu'ils se sont retrouvés à l'Inter. Depuis qu'il joue plus reculé, Mkhitaryan, t'as l'impression que toute sa technique.
La Roma, là.
Exactement, sa technique. Non, parce qu'il jouait plus haut à la Roma. Là, il est beaucoup plus bas sur le terrain. Et t'as l'impression qu'avec sa technique et sa vision du jeu, il s'est totalement adapté à sa deuxième carrière, entre guillemets. Et ouais, comme les deux, Chalhanoglu et Mkhitaryan, c'est impressionnant ce qu'ils font.
On souligne pas beaucoup, mais Inzaghi, ce qu'il fait avec l'Inter, c'est fort. Hein. Depuis plusieurs saisons, hein, déjà, ce qu'il enchaîne, ce qu'il montre depuis plusieurs saisons.
Le recrutement de l'Inter, il est super intelligent.
Tout est cohérent. On voit les clubs avec la planification. Liverpool, Real, Inter, bizarrement, ça bosse bien. Après, c'est un degré moins d'Atalanta.
Aussi. Même là, ça a bien bossé là finalement. Ils ont laissé partir Osimhen, mais ça bosse bien depuis le début de saison. Ils ont récupéré Lukaku.
Mais c'est moins sur la durée. C'est plus un one shot. Ils ont pris Conte qui fait une équipe de soldats.
David Neres.
L'Inter, ça fait 4-5 ans.
Non, mais l'Inter,
franchement,
ça bosse bien. Tu vois leur
finale de Ligue des Champions il y a 2 ans.
Il y a 2 ans, mais ils ont continué. Tu vois, ils sont restés. L'année dernière, ils se font sortir, mais sur un coup de dé en Ligue des Champions. Cette année encore, ils vont être très très durs à sortir. L'équipe qui va la sortir en aller-retour, à mon avis, elle sera pas loin de la vérité.
Parce que le milieu de terrain, pour le prendre, il faut se lever tôt. Ah oui, il faudra se lever tôt.
Zielinski sur le banc, Aslani.
Il faudra se lever tôt pour prendre cette équipe de l'Inter. Bon, le Bayern qui ira au Shakhtar avec une équipe décimée aussi, hein, pas mal de blessures du côté bavarois. Moussiala, hein, qui est en ce moment le magicien et qui fait énormément de bien à cette équipe avec la blessure d'Harry Kane dernièrement. Et les ailiers qui ont un peu du mal, Gnabry et Leroy Sané, c'est assez compliqué ces derniers temps.
Non, Leroy Sané,
ça fait longtemps qu'il a du mal.
Ça fait peut-être 2 ans. Il
faudrait qu'on arrête d'en parler, Leroy Sané, tous les lundis.
Non, il est vraiment, mais vraiment
il fatigue
pas bon,
tout le monde.
Non, c'est Olise qui a du mal aussi.
Ça se voit que mentalement, ça se voit que mentalement il n'est pas bien.
Mais Sané n'est pas bon et en plus sur le terrain t'as l'impression que c'est la faute des autres en fait.
Ouais, mais ben non, parce que en fait il a besoin de faire la différence lui tout seul. Parce que sinon, il n'est pas bien.
On va continuer avec RB Leipzig-Aston Villa. Ça reste un bon match, hein. RB Leipzig-Aston Villa. Doucement, pas tous en même temps, s'il vous plaît. On a du mal à entendre.
Non, mais Leipzig, c'est très compliqué cette année en Ligue des Champions.
Même en championnat, cette année,
dernière chance.
Là,
en Ligue des Champions, c'est la dernière chance.
Même en championnat,
c'est pas mal. Ils sont relancés là dernièrement en championnat.
Ligue des Champions, c'est 0 points.
C'est 0 points, quand même.
Oui, Ligue des Champions, c'est 0 points. Ils n'arrivent même pas à marquer, hein, je pense. Je ne sais même pas s'ils ont réussi à mettre. Voilà, 4 buts marqués. Et ça, c'était vers les débuts. Hein. Ça fait déjà 2-3 matchs. Ils n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre. C'est assez compliqué. Aston Villa qui peuvent réaliser une bonne opération à Leipzig. Il y a Brest aussi, hein, nos amis brestois. Il ne faut pas les oublier. Hein, qui vont jouer à domicile face au PSV Eindhoven. Le PSV Eindhoven qui ont joué les troubles faits au Parc des Princes. Est-ce qu'ils peuvent faire. Bon, ils sont favoris. PSV Eindhoven favori à Brest.
À domicile, forcément. Oui. Et après,
ouais,
non, c'est à Brest.
C'est à Brest.
Oui, c'est à Brest.
Pas à Guingamp, du coup.
À Guingamp, ouais, exactement, ouais.
Ouais, bah.
Au Roudourou.
Ouais, si Guingamp s'impose, je serais pas étonné parce que le PSV.
Guingamp joue pas, par contre.
C'est Brest, plutôt. Ouais. Si Brest s'impose, je serais pas surpris parce que le PSV, c'est pas une équipe que je trouve. Enfin, ils arrivent à se qualifier en Ligue des Champions, mais. au moment de marquer des buts, je trouve que j'ai pas l'impression qu'ils sont au rendez-vous à chaque fois. C'est ça rate pas mal d'occasions, donc
parce que faut
qu'il y a des joueurs comme Noah Lang, Bakayoko, ils sont pas mauvais, mais c'est pas assez tranchant.
Avec
donc,
De Jong aussi,
Tillman, Saïbari, il y a du monde, il y a des toujours comme ça dans le championnat hollandais, de façon des jeunes joueurs qui vont aller faire le bonheur des plus grands clubs.
Après là, ils roulent sur le championnat cette année. Ils sont en tête assez largement devant l'Ajax.
Ouais, mais en Ligue des Champions, c'est toujours plus compliqué.
Ouais, c'est sûr.
Comme ça,
là, ils sont encore en course pour se qualifier en 16e de finale. Dans le top 24, c'est leur niveau pour moi. Enfin, voilà,
c'est ça, ouais.
On les attendait pas dans le top 8. Clairement, ils vont se bagarrer, mais je pense que ouais, ça va le faire contre Brest.
Ok, bah, nous, en tout cas, on l'espère pour nos amis brestois que ça va le faire aussi pour eux. Et le dernier gros choc, hein, la Juventus, la vieille dame qui vont recevoir une autre vieille dame, Manchester City, qui en ce moment a du mal à traîner sa canne. Manchester City, ça va pas du tout. Hein, et là on va y parler.
Ouais, c'est un peu le choc de développer les deux.
Oui, bien sûr.
Mais
Juventus, avec Vlahovic qui était blessé, c'était difficile. Il faisait jouer Wea en 9. Et on a vu là ce week-end encore.
Ils sont bien revenus face à Bologne quand même.
Ouais, face à Bologne en perdant 2-0 avec Thiago Motta qui a fait un très vilain geste sur l'arbitre.
Il tirait son ballon sur l'arbitre,
l'arbitre. C'est 3 mois ça.
Ah non, ça peut être en tout cas, ça va être, il va être suspendu plusieurs matchs, je pense. Et c'est parce qu'il doit vraiment montrer l'exemple. Et là, ce qu'il n'a pas fait sur ce match-là, Juventus-Manchester City, quels sont vos. C'est dur à pronostiquer,
très dur à lire,
Maxence,
ouais. Très dur à lire.
Un match nul.
Quand j'étais pas, je dirais match nul, ouais. Exactement. En plus, c'est la spécialité de la Juve en ce moment. Je pense que City se rassurerait un peu en perdant pas. Allez.
Manchester City qui doivent gagner quand même à tout prix, hein. Pour espérer être dans le top 8, même là, je pense pas.
Ah ouais, non,
ça va
8,
être compliqué,
mort,
même dans le top 8.
24,
quoi. C'est très compliqué. Je rappelle, hein, Manchester City qui sont 17e. Ils sont 17e quand même, Manchester
Ils
City.
Ils ont deux défaites, c'est ça? Deux ou trois?
Sporting,
ouais,
Inter.
17e.
Sporting,
ils sont...
Inter, ouais, c'est ça, deux défaites.
Ils sont quand même moins dans l'urgence. Ils ont 4 points d'avance sur le PSG qui est le premier non qualifié. Ça laisse quand même une petite marge.
Oui, il leur reste une petite marge. Bon, mais ça, en tout cas, pour être dans les 8 premiers.
Ah, c'est cuit.
Faut qu'ils gagnent.
Non,
faut qu'ils gagnent parce que les autres sont à 10 points, quoi. Monaco, le premier, sont à 10 points. Bon, après, même si Aston Villa, 9e, et Sporting, 10e, et Brest et Lille, 11e, 12e, qui ont 10 points, c'est faisable encore. Mais faut gagner. À la vieille dame. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Lucas, vas-y.
La Juve, ils ont quand même des... Comme on disait, ils sont irréguliers, ils font beaucoup de matchs nuls. Ils ont quand même, pour moi, un projet qui ressemble un peu à celui du PSG, à une moindre échelle. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de joueurs qui sont assez jeunes, qui n'ont pas prouvé grand-chose. Mais eux, quand même, ils se montrent. On voit que Khéphren Thuram, il commence à devenir titulaire, il progresse de plus en plus.
Et
devant... Ouais, et devant, comment il s'appelle, Yildiz, je crois, le Turc.
Yildiz,
ouais. Et le fils, là, Conceição, c'est les deux, ça va à 1000 à l'heure, ça a des grosses, grosses qualités. Donc je pense que quand Vlahovic sera revenu, bon, après, il se blesse beaucoup.
Il est revenu, là, Vlahovic.
Je veux dire, revenir à un bon niveau. Après, c'est blessure parce qu'il se blesse, il revient lui aussi. Et il est quand même un peu décevant depuis 2 ans, alors que c'était un serial buteur à la Fiorentina.
Faut qu'il trouve aussi un remplaçant, peut-être, pour Vlahovic. Hein.
Que Dzeko.
Non, Dzeko n'est pas à la Juventus.
Il a fait Fenerbahçe.
Oui, il a fait non,
c'est pas Dzeko qui, je pense, c'est l'ancien de Marseille, la Milik, pardon.
Ah,
c'est
Milik, ah oui, Milik, ouais.
C'est Milik qui est blessé depuis.
C'est Milik aussi.
Milik aussi est bon quand il est là, mais ouais, Milik est blessé.
Il a le profil pour jouer en Italie de toute façon. Et, mais ça, peut-être qu'il faudrait augmenter le niveau pour les 9. Mais je trouve que la Juve, en tout cas, il y a un truc à faire, mais je pense que c'est un peu tôt. Donc moi, je vois une petite victoire de City pour se rassurer.
Et toi, tu penses que City peuvent se relancer?
Moi, je vois un match nul parce que Manchester City, on en parlera. Je sais pas si vous avez vu le match ce week-end, mais ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression qu'il. Il y a eu un changement de visage de cette équipe, c'est assez alarmant quand même. Ça fait plus les efforts, ça fait énormément d'erreurs défensives. On a même vu qu'il a changé le gardien. Du jour au lendemain, Ortega est devenu titulaire à la place d'Ederson, c'est un choix fort quand même.
Et on se demande pourquoi, parce qu'il n'est pas exceptionnel du tout. Ortega.
Non, il n'est pas exceptionnel du tout, Ortega. Enfin, Ederson, même s'il n'était pas très bon ces derniers temps, ça reste quand même meilleur. Donc ouais, Manchester City, ça reste assez fébrile, mais la Juve aussi, c'est 9 matchs nuls sur 15, c'est quand même assez hallucinant. Donc moi je verrais bien un match nul, un triste 0-0.
Un triste 0-0. En tout cas, c'est pas ce que nous on souhaite voir, on veut un peu de spectacle quand même. On va enchaîner avec juste après la petite pause, on va enchaîner avec la Première Ligue, hein, Manchester City, on le disait si bien, qui ne vont pas bien, hein, qui vont encore buter à Crystal Palace au profit de Liverpool qui n'ont pas joué avec une tempête qui s'est tabattu sur la pelouse de
Everton.
Goodison Park, exactement. Et le match qui a été reporté, du coup. Et Arsenal aussi, qui bute. La bonne opération, c'est pour les Blues de Chelsea qui se sont imposés à Tottenham. On y revient tout de suite. De retour, bon, ça n'a pas été une pause, ça a été une petite virgule, mais on est quand même de retour. On le disait, hein, Manchester City qui ne réussit pas à gagner à Crystal Palace. Qu'est-ce que t'en penses, Manchester City? Pep Guardiola n'y arrive vraiment plus. Je sais même pas quoi dire, en fait, mots, parce que j'en perds mon latin. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu cette équipe jouer à ce niveau. Qu'est-ce que t'en penses, Ibrahima?
J'ai regardé le match, du coup, et personnellement, j'ai l'impression, les joueurs ne font plus les efforts, en fait. C'est ça le plus grand souci, moi, selon moi, de Manchester City. Quand il y a une perte de balle au milieu de terrain, plus personne court, en fait. Et quoi qu'on en dise, l'absence de Rodri se fait ressentir à un niveau, mais je pensais pas que c'est...
Est-ce que c'est que l'absence de Rodri? Parce que moi, je pense que tout le monde met sur ça l'absence de Rodri.
Comme je l'ai dit précédemment, les joueurs ne font plus les efforts. À un moment donné, si tu cours pas, tu vas perdre le match.
Mais avant, ils contrôlaient tellement les matchs qu'ils n'avaient pas besoin de faire tant d'efforts que ça. Donc quand ils avaient des rares incursions, ils les faisaient. En fait, pour moi, c'est un manque de contrôle. Et tu as raison, ça souligne le rôle de Rodri.
Ça souligne le rôle de Rodri, parce que plus personne court. Et après, offensivement, moi, je suis désolé, mais un joueur comme Savinho, Non, en fait, c'est pas.
Je suis d'accord avec toi.
Il n'est pas prêt encore.
Même Riyad Mahrez était largement supérieur à lui. J'aime pas comparer les joueurs, par exemple, mais Riyad Mahrez, qui n'était pas tout le temps titulaire à Manchester City, certains s'étaient peut-être habitués à voir des joueurs de ce niveau-là, mais aujourd'hui, en voyant Savinho, je me rends compte que Riyad Mahrez était très très fort, en fait, finalement. Jack Grealish, c'est pas la peine d'en parler, je pense. Je comprends pas pourquoi Doku démarre pas certains matchs, même.
Le dernier match, parce qu'en sachant que le match d'avant, il l'a démarré très très bien, avec un but fantastique.
Ouais, avec un beau but face à Nottingham.
Un très beau match.
Et là, il ne démarre pas le match. Et Erling Haaland, s'il n'est pas servi, il ne va pas mettre de but. Et défensivement, c'est très compliqué. Hein.
Ouais.
Et le gardien inclus, enfin, Gvardiol qui...
Il a changé de gardien en plus, Ederson. Oui, il a mis Ortega et laissé Ederson sur le banc.
C'est pas mieux du tout, Ederson est meilleur qu'Ortega.
Ah bon? Ça, c'est ce que tu penses?
Oui. Moi, je suis d'accord.
Il a un meilleur jeu au pied, et même sur sa ligne, je le trouve meilleur. Même si ces derniers temps, il n'était pas bon. Hein.
Oui, c'est pas ce que Pep Guardiola en pense, mais ces derniers temps, il leur a coûté quand même des matchs. Hein. Maintenant,
oui,
quand je repense même à Feyenoord,
c'est lui.
C'est lui, tu vois. Et quand Pep Guardiola voit ça, il doit réagir. Et là, forcément, il doit se dire va chauffer le banc un peu pour te reconcentrer un peu.
Il se griffe le visage et tout, mais.
C'est compliqué en tout cas.
C'est pas évident pour City.
Mais il y a aussi le cadre qui, au-delà de Rodri qui manque, je trouve que De Bruyne qui joue pas tout le temps en plus.
Il vient de revenir là.
Et qui revient pas très très bien. Et Bernardo Silva aussi.
Ah si, quand même. Le match contre Nottingham Forest,
c'est sa première
titularisation. Il fait un très bon match.
Ouais, c'est un match.
Oui, mais il venait de revenir.
Ce que je veux dire aussi, ça fait un moment que je crois qu'il a sa disposition et qu'il joue pas. Tu vois, il le met pas, il a pas précipité son retour.
Oui, il a pas précipité son retour.
Peut-être qu'il se blesse. Et Bernardo Silva aussi, on parlait des joueurs. À l'époque, il y avait un gros Bernardo Silva, donc Mahrez, il avait pas l'air si fort que ça.
C'est ça.
Maintenant, quand tu vois la baisse de niveau de Bernardo Silva, c'est spectaculaire.
Et Gundogan, est-ce que Gundogan, ça a été un bon retour?
Gundogan, il est fatigué. C'est derrière lui. Et voilà, moi, c'est pas sur Savinho, Doku que j'ai envie de taper. Moi, c'est les mecs qui doivent prendre cette équipe en main. C'est un Foden, par exemple. Foden, là, il n'était pas là ce week-end, mais il était malade. Mais le mec, meilleur joueur de Première Ligue l'an dernier, enfin, en tout cas, élu meilleur joueur de Première Ligue. Et cette année, il est totalement invisible.
Depuis l'Euro, même.
Ouais, depuis l'Euro, très mauvais aussi, tu as raison de le préciser. Des mecs comme Bernardo, enfin, c'est leur équipe. Haaland, c'est super.
Haaland, il a besoin d'être servi.
On a souligné ça. Après, quand tu veux être un grand joueur aussi. Et quand tu es... un des meilleurs attaquants du monde, tu dois aussi pouvoir te débrouiller un petit peu tout seul. Je dis pas gagner
tout
le... Oui,
mais avec aucun ballon, en fait, il n'est pas servi. Parce qu'Haaland, on sait, par contre, voilà, c'est une chose, ok, on dit souvent, oui, il met des buts d'attaquant, mais Haaland, qu'on le lance dans la profondeur, il est très adroit devant le but, qu'on le lance dans la profondeur, qu'on lui mette des ballons en hauteur, il va aller chercher, que ça soit du pied, du bout du pied, même s'il va mettre sa jambe à 2 mètres de haut, il va la mettre, il va la chercher, mais il lui faut des ballons.
Mais
je trouve que c'est limité comme profil. Il faut qu'on le serre.
Ouais.
Moi, j'ai vu le dernier match où il demandait à Doku plein de fois de lui mettre le ballon ou de centrer, et Doku qui tentait des frappes qui allaient je ne sais où, tu vois.
C'est l'un des plus gros problèmes que j'ai, moi, avec Manchester City. Je comprends pas toujours l'utilisation des ailiers. Ils centrent pas, Et ils font des passes en arrière à chaque fois. Enfin, Grealish, c'est horrible à voir jouer en fait. J'ai l'impression qu'il sait même pas dribbler.
C'est du handball en fait. Les mecs, ils sont au point de corner, ils ressortent la balle. Et puis voilà. Handball,
on finit par tirer.
C'est parce qu'en fait, Guardiola et l'école catalane en général, ils s'incluent dans leur tête un certain système de jeu, donc qui est dans la maîtrise, et sauf qu'ils attendent des joueurs différentiels. Et ça marchait avant, pourquoi? Parce que tu avais des joueurs qui étaient incroyables avant. Le Bayern de Guardiola, t'as Robben Ribéry. Le Barça, t'as des joueurs incroyables de côté. City, tu l'as dit, t'avais Mahrez, t'avais
Bernardo top,
Silva Foden, au top, t'avais Foden au top, etc. Et maintenant que t'as des ailiers qui sont qui peuvent faire moins de différence balle au pied, bah du coup tu t'emmerdes en fait parce qu'il y a pas de perforation dans le bloc en fait tout simplement.
Ça fait des passes en retrait.
Sauf que là où en fait on reproche justement à ces coachs là, c'est qu'en fait ils restent bornés dans leur idée de jeu, ils veulent pas évoluer. Et donc là, Pep Guardiola, moi je veux bien qu'on tape sur les joueurs, etc. Mais au bout d'un moment, Pep Guardiola, faut peut-être qu'il essaie d'évoluer, qu'il essaie de changer quelque chose dans le système de jeu.
Je pense que c'est une fin de cycle. Ils sont tous lassés.
Il a prolongé 2 ans quand même.
Ah oui, c'est sûr. Mais ça, c'est une erreur. À mon sens, c'est une erreur du club. Après, c'est voilà, pour le remercier de ce qu'il a fait, etc. Mais comme on disait la semaine dernière, 6 titres en 7 ans en Première Ligue, c'est pas normal. C'est pas quelque chose qu'on doit banaliser. C'est extraordinaire ce qui a été fait.
Ah oui, je remets pas du tout en question.
Et voilà, je pense que là, on est sur une fin de quelque chose. Il faut que ça se termine le plus rapidement possible, entre guillemets, pour les deux parties.
Il aurait dû partir en même temps que Klopp pour on leur fait une standing ovation.
Ou alors là, en fin de saison, tu vois, en disant mon message, il passe plus, au revoir. Et puis tout le monde applaudira pour ce qu'il a fait. Et puis, bravo.
Oui, bien sûr. Et ça profite à Liverpool, qui n'ont pas eu besoin de jouer pour rester à distance, en tout cas de ces équipes, même s'ils reviennent à un petit point. Arsenal qui n'y arrive toujours pas, Arsenal qui bute, Arsenal, c'est Arsenal quoi.
Fellam n'était pas extraordinaire pourtant,
oui,
honnêtement.
Puis inquiétant parce qu'on met beaucoup en avant cette histoire de coup de pied arrêté qui a encore bien marché ce week-end avec le but de Saliba, la semaine dernière contre United, mais je trouve que ça masque aussi un petit peu le désert offensif et le manque de créativité, parce que là enfin je regardais contre Fulham et je me disais en fait à part sur un coup de pied arrêté comment ils peuvent marquer quasiment, c'est il y a Saka qui sort de sa boîte une fois ou deux, ouais. Mais sinon je trouve ça quand même stérile et comme je disais la semaine dernière, en fait pour qu'il y ait une vraie bataille pour le titre avec Liverpool qui a 6 points d'avance, un match en moins, il faut qu'il y ait une équipe derrière qui soit capable de chasser très fort comme le faisait City les autres années où ils partaient et on savait qu'ils pouvaient enchaîner sur 15-20 matchs sans défaite en gagnant 2 sur 3. Et je pense qu'Arsenal n'est pas capable de ça cette année et n'aura pas cette régularité-là.
Et attention, hein, ceux qui viennent jouer les troubles fêtes, Chelsea, qui sont maintenant les dauphins, qui sont un peu plus solides et en tout cas un dauphin solide. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas? Chelsea, qui se sont imposés 4-3, c'était mal parti. Hein. Au bout de 15 minutes, ils étaient menés 2 buts à 0. Mais pas de panique.
Du coup, Kukurela,
oui, qui a glissé deux fois ouais, leur a coûté 2 buts et qui a fini par jeter ses crampons d'ailleurs à la poubelle. Et juste après, Sancho qui fait un peu de magie. Sancho qui commence à retrouver des couleurs et Chelsea qui déroule avec un Cole Palmer glacial tout simplement.
Ouais, moi j'ai plus envie de mettre Sancho en avant que Cole Palmer. Je l'ai pas trouvé si extraordinaire que ça, Cole Palmer, sur le match, mais c'est tout Chelsea en fait qui, on voit qu'il y a un effectif maintenant qu'il a trouvé une hiérarchie dans son équipe. Maresca, on a l'impression que vraiment l'effectif progresse là. Enzo, il jouait pas trop en début de saison, là il revient à un gros niveau, il met un but magnifique, je crois que c'est pour égaliser, ça c'est le 2-2 qu'il met,
non, il met
c'est
le 3,
il met 3-2.
C'est un but, oui c'est le penalty de Palmer pour le 2-2, mais en tout cas c'est un but magnifique, voilà, il les met devant. C'est le match du week-end. Tottenham un peu décevant quand même parce qu'avec 2-0 ils auraient pu faire mieux, ils sont à domicile, mais les 2-0 au bout de 20 minutes comme ça et se laisser avoir, même si Sancho va mettre son ballon tout seul, son but tout seul, c'est un peu décevant. On voit que Tottenham ils arrivent à faire des grosses performances un week-end et le week-end d'après ils font n'importe quoi, ça change pas non plus, hein. ça fait des années, des décennies pour le coup que c'est pareil. Et pour Arsenal, ouais, juste c'est dommage qu'il y ait encore un but refusé pour 10 cm parce que le centre de Martinelli là pour Saka, c'est encore un but qui est retiré pour un demi-pied qui dépasse. C'est quand même assez frustrant cet arbitrage scientifique, j'ai envie de dire. Mais voilà, mais pour le coup je suis d'accord sur le reste. Arsenal avait pas été avait l'impression qu'il manque de jus et qu'à part sur coup de pied arrêté, ils sont pas assez dangereux. Et voilà, Chelsea qui passe devant, et en fait c'est assez logique. Au final, vu ce qu'ils montent depuis le début de saison, avec des mecs comme Nico Jackson, qui était catastrophique l'an dernier, mais qui commencent à trouver leur place dans l'effectif et à montrer leur utilité sur le terrain, et ben voilà, ça joue et ça gagne.
C'est ça, ça joue, ça gagne. Et bah, qu'il ne faut pas la bonne opération Arsenal encore. Hein. Bah, Chelsea, en tout cas, bah, là, qui sont deuxièmes. Moi, j'ai envie de parler aussi du bon Chelsea qu'on a depuis le début de saison et qu'on ne les voit pas, parce qu'on dit bien, on les voit pas. Mais attention, là, ils montent et ils enchaînent les victoires hein, de haut standing. Qu'est-ce que tu en penses, Ibrahima? Tu penses que Chelsea, ça peut aller au bout? Ça peut mettre la
Non.
pression à Liverpool?
Franchement, surpris, très surpris de voir cette équipe-là. Parce que la saison passée, on se souvient tous de la saison de Chelsea, même si à la fin, ils réussissent quand même à accrocher une place européenne, mais c'était pas fameux en début de saison. Mais
Ligue
là,
conférence quand même.
ouais, ça fait un trophée de
C'est la
plus,
première
hein.
ligue, hein, c'est
Là,
ça.
mais là, il y a un ouais, Cole Palmer, je trouvais extraordinaire en ce début de saison. Hier, un peu, il a pas fait, c'était pas le meilleur du côté de Chelsea, mais c'est un excellent joueur.
Sapalinka, c'était quelque chose.
Ah oui, c'est très insolent.
Elle est
Mais
parfaite.
ouais,
Au milieu, Romeo Lavia, il fait un
elle est vraiment
match,
parfaite. Oh,
il fait un match
Lavia,
extraordinaire.
Caicedo, il commence à
Caicedo
rentrer des
Lavia
buts
dans
ordinaires.
l'intensité, dans la justesse, c'était fou. Et puis au-delà de ça, je trouve que c'est
Enzo
la
Fernandez.
ouais, la
Ça fait
force
trois matchs
mentale.
consécutifs qui marquent.
La force mentale de cette équipe, parce que mener 2-0 au bout de 12 minutes
À l'extérieur.
avec deux boulettes où Cucurella il glisse, etc. Il y a plusieurs équipes qui se seraient mis la tête dans le seau, qui auraient perdu, voilà,
Ouais, deux
2-3-0 et puis
boulettes
laissé
du
couler.
côté de Tottenham
Mais
aussi.
là, ils sont relevés. Oui, les pénaux
Le
sont
tacle
cadeaux, ils sont débiles,
de
complètement
Bissouma,
débiles.
j'ai pas compris. Et
Mais parce que
la
Chelsea
faute
a
de
eu la force
Pogba,
de revenir dans le match à ce moment-là, parce qu'à 2-0, ils peuvent couler et puis ils peuvent
Bon, frère,
attendre que ça se passe.
c'était au bout de 15
Bon,
minutes, donc
Chelsea
il
qui
restait du
poussait
temps quand même.
aussi, hein, Chelsea qui poussait aussi, hein, il leur mettait la pression à cette équipe de Tottenham. Alexandre, toi, un petit mot à rajouter sur la Première Ligue et sur tout ça?
Bah franchement, je pense que tout a été dit. Et voilà, la bonne opération, c'est bah ça reste Liverpool en fait. Sans jouer, ils gardent leur avance. Arsenal, c'est toujours décevant, on le sait. Mais voilà, en tout cas, grosse performance de Chelsea. Et moi, je serais vraiment pas surpris de les voir terminer, pourquoi pas devant même Arsenal. Après, moi, je voulais aussi revenir sur Manchester United. On n'en parle jamais parce qu'ils sont jamais dans le haut du tableau. Mais Manchester United, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est compliqué
Ça rend
même.
la
Je sais
trahison
pas
de
si
Amorim
vous.
encore plus critiquable. Franchement, quitter
Bah.
ton équipe alors que tu avais annoncé que tu voulais être deux fois champion avec le Sporting parce que ça n'avait pas été fait depuis des décennies, aller se mettre dans ce bourbier de United, franchement, il mérite que
Mais
ça, d'échouer
il
comme
part
les
aux
autres.
oubliettes de ce
Et
club, hein,
quand tu vois ce que
franchement.
Sporting donne maintenant, ça fait mal au
Ça fait
cœur.
mal au cœur, ouais.
Ça fait mal au cœur de voir ça. Ils avaient tout pour passer une saison de fou.
Mais ouais, je suis
Et
d'accord.
là, ça s'écroule parce qu'en Ligue Champion, ça va pas durer. Et puis en
Le
championnat, ils
championnat,
sont en
il
train de
gagne
perdre.
plus. Ouais.
Il y
Ils
avait
gagnent
une
plus.
osmose et il a tout claqué
Il a tout
dedans.
foutu en l'air. Et ouais, c'est assez
Vous, c'est
terrible.
comme ça que vous voyez. Vous ne voyez pas comme une
C'est ce
opportunité.
que j'allais dire
C'est
aussi.
une opportunité aussi.
Non, parce que si t'es un
T'es au
très bon coach,
Sporting.
À la fin de l'année,
l'opportunité,
il aurait
les aurait eu en fin
l'opportunité.
d'année, les
Ah
opportunités de
bah
créer son
non.
effectif,
Non,
de.
attendez, excusez-moi, mais si United recrute un autre entraîneur là, ça m'étonnerait
Mais
qu'en
peut-être
fin de
pas
saison.
United, mais ailleurs.
Non,
tu vois,
mais
City,
Van
oui,
Nistelrooy, il est
si
resté.
Guardiola,
C'est ça, Van
oui, mais
Nistelrooy, c'est un bon coach aussi. Il serait
il est à
resté.
Leicester.
Oui, mais
C'est
si lui,
il a gagné avec Leicester
oui,
d'ailleurs.
mais si lui voulait aller United maintenant, parce
Mais il
qu'on
voulait
voit,
pas aller à
parce que,
United, il voulait aller là où il y a de la place,
non,
là où il y a
parce
de l'argent
que,
aussi.
non, parce
Enfin,
que,
il levait
parce
de
qu'on,
l'argent.
non, excusez-moi, mais on voit bien aussi ce qu'il fait à United. Moi, je vois des joueurs qui retrouvent des couleurs quand même. Là,
Ah
ils
bah
perdent à Nottingham
oui,
Forest 3 buts à
Rashford,
2.
ouais,
Oui,
Diallo, ouais.
mais oui,
Diallo, ouais.
même
Rashford un
Rashford,
petit
il commence à
peu,
revenir. Moi, je
ouais.
pense qu'il leur faut du temps après. Hein. Il ne va pas
Ah,
revenir avec une baguette
bien sûr qu'il
magique.
faut du
On
temps.
se rappelle de Erik ten Hag, comment il a laissé cette équipe. Et on voit depuis là,
Même celle qu'il a
juste dans la
récupérée hein,
façon de
pour.
jouer, oui.
Ah, et moi, je pense que ça peut marcher. Hein. Je dis pas ça, mais je dis
Non,
juste que
mais
le
parce
geste
que
d'Amorim,
vous
voilà. Non,
critiquez
on
tous son
critique.
choix.
Ouais, son choix,
Oui,
parce qu'il est
son choix.
dégueulasse par rapport au Sporting, aux
Voilà.
supporters, au club qui lui a fait confiance.
Et ils l'ont bien
Aux
rendu.
joueurs,
Non,
à ses
mais ils
joueurs,
l'ont
ils l'ont
laissé
mis hors,
partir.
bien
Non,
sûr.
mais attendez, ils se sont
Mais.
arrangés quand même. Il n'est pas parti comme un voleur
Bah, si,
du
un peu
jour au
quand
lendemain.
même.
Non, il
Bah,
a,
il
il
est
a
parti que
prévenu.
du jour au lendemain.
Non,
Bah, il
il
est
a
parti deux
prévenu.
semaines
Après,
après. une semaine.
Ils
Ils
ont
ont
pris de
pris...
l'argent, hein, le Sporting.
Ouais, 25 millions, je crois. Ils ont
Ouais,
pris.
ouais,
ouais.
Mais
Après,
après,
aussi, ça les
c'est un
arrange.
cadeau. Hein.
Partir du
Bah
moment où
oui.
le mec veut partir, de toute façon, tu vas pas le retenir et
Voilà.
dire coach mon équipe pendant 6 mois. Il a pas envie, il a pas envie.
Mais en plus, on
Mais.
critique toujours les joueurs, tu vois, qui quittent après à peine arrivé et tout. Et là, les lâcher son effectif alors que t'es une figure d'autorité, t'es l'entraîneur. Partir
Tu
comme
l'as
ça en milieu de
construit.
saison, t'as construit l'effectif, t'as fait
T'as
des
fait venir
grandes
des
annonces
joueurs,
l'été.
t'as fait venir
Je
des joueurs
trouve
en mois
que.
d'août et en novembre, tu t'arraches.
Je
Et
trouve
c'est
pas.
chaud.
Et tout se passe bien et tu
Oui,
claques
mais
des
les
doigts,
coachs
même
qui sont
pas.
virés, vous pensez aux coachs qui sont virés
C'est
et qui
différent
font leur
le
effectif
résultat. Là,
et
c'est
qui font
totalement
leur truc? Non,
différent.
mais.
Parce
Attendez,
qu'il y a
c'est
parce que là,
différent.
il y a un
Voilà,
manque de
non, mais en fait,
résultats.
vous, c'est juste quand. En fait, ça va juste dans un sens.
Mais non, mais
Quand, en
parce qu'il
fait,
a dit, là, c'est parce qu'il
ils
y a
se
un
font
manque de
virer.
résultats. Alors que là,
Où
tout
est-ce
allait
qu'il y a un
bien.
manque de
Non,
résultats?
quand les coachs se font virer, c'est parce qu'il y a généralement, c'est parce qu'il y a un manque de résultats
Oui,
que ça se passe
oui.
pas bien. Là, tout se passait bien.
Mais Sporting, ils sont pas dans une situation Klismic, non.
Bah là, ils sont à deux défaites d'affilée en championnat.
Match nul.
Ils ont été éliminés en coupe.
Mais ça, ils vont perdre leur première place et voilà. Et
ah
ça,
non,
ça,
ils sont pas. Non, ils ont bon, ils ont deux points d'avance sur Benfica qui ont un match.
Mais
en
ils en avaient sept. Ils en avaient sept au départ de d'Amorim. Oui. Donc je pense qu'il a foutu leur saison en l'air, moi. Mais et à mon avis, c'est un très bon coach. Et à mon avis, s'il était resté jusqu'à juin, il aurait eu des opportunités. Peu importe où, que ce soit.
Même à Paris, pourquoi pas.
À Paris, que ce soit City, que ce soit.
On
sait pas. Dans le football, ça bouge tellement vite. Au Bayern, s'ils font une sale saison. Enfin voilà, il y aurait eu des opportunités. Donc aller dans ce bourbier.
En fait, c'est même pas. Après, c'est aussi les choix de l'équipe aussi hein, qui vont chercher un coach
sous contrat, etc.
Voilà, c'est aussi ça aussi. Le Sporting aussi, ils auront pu faire
du foot,
de meilleurs choix. Bah oui.
C'est non, mais United n'a pas.
En tout cas,
United
on ne va pas s'attarder là-dessus. On va se faire juste une petite pause cette fois-ci et on va revenir pour débattre, bien évidemment, de l'incontournable Kylian Mbappé. On va commencer tout doucement avec la Liga et les résultats de la Liga très rapidement avant de commencer sur l'interview qu'il a faite dans Click. À tout de suite.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour, il est 21h46 si vous venez de nous rejoindre. On va commencer avec la Liga. Le Real Madrid qui perd à Bilbao avec encore un pénalty raté de Kylian Mbappé. Avant de se relancer face à Gérone, 3-0. Le Barça qui s'impose 5-1 face à Mallorca avant de concéder le nul face au Betis Séville. L'Atlético de Madrid qui perd à domicile. Non. Qui gagne à domicile face à Séville avec un Antoine Griezmann de grand jour et un Diego Simeone avec plein d'inspiration comme on aime. Quels sont vos faits marquants très rapidement sur l'Atlético de Madrid déjà qui s'impose en fin de match et qui produisent du beau jeu hein, avec 4 buts et ça a été un match assez plaisant que moi j'ai pu suivre jusqu'à la dernière seconde. Qu'est-ce que t'en penses Maxence?
Ouais, grosse force mentale de l'Atlético qui est revenu dans un match où il s'était mené un peu contre le cours du jeu. Mais très fort la manière dont ils sont revenus. Et puis ça montre que c'est le troisième larron de ce championnat. Faut pas les enterrer si vite parce qu'on a tendance à avoir le regard sur les deux gros en haut. Mais l'Atlético, dans l'ombre, ils font leur petit chemin. Et puis s'il y a une défaillance devant, à mon avis, ils seront là pour récupérer les miettes.
Ouais, au-delà du gros match de Griezmann en deuxième période, il y a Samuel Lino qui met un sacré but quand même. C'était magnifique. Et voilà, Séville, ils sont un peu moins bons cette année quand même, faut le dire. C'est un peu décevant.
Cette année, hein.
Ça fait des années qu'ils sont catastrophiques.
C'est assez surprenant.
Ah, je trouve que cette année, c'est encore plus marqué que les années précédentes.
Non, au contraire. L'année où ils gagnent l'Europa, c'est chaud. Ah,
ouais. Bah, donc ils gagnent l'Europa, je parle pas forcément en Liga, je parle globalement. L'année dernière, déjà, ça commençait, mais je trouve que c'est depuis l'an dernier, cette année, c'est encore plus accentué.
Je pense, hein, parce que l'année dernière, c'était vraiment...
Non, mais Séville, c'est...
Mais ils sont 13e, je crois, c'est catastrophique.
Mais l'année dernière, ils étaient 17e, quasi toute la saison.
Oui, l'année dernière, ils ont failli être relégués.
Mais en tout cas, voilà, Séville qui continue à être décevant, Atlético qui s'est bien repris, on voit que quand ils veulent, ils peuvent jouer, ils ont quand même des sacrés joueurs de ballon, c'est dommage de toujours faire le minimum à l'Atlético. Et le chassé-croisé Real-Barça, pour moi, qui va continuer, c'est encore le début de... Après la trêve, je pense que ça, on verra les forces vraiment... On le verra monter en puissance, mais là, je ne suis pas étonné qu'il y ait des petites contre-performances à droite et à gauche.
Là, c'est le mano à mano, on peut dire ça comme ça. Le Barça qui s'impose 5-1 face à Mallorca et ensuite qui concède le nul à domicile face au Betis Séville. Alexandre ?
C'était important de gagner face à Mallorca parce que le Barça sortait d'un mois de novembre très compliqué.
On sortait, tu peux le dire.
On sortait d'un mois de novembre vraiment très compliqué avec un Rafinha qui retrouve un bon niveau contre Mallorca et l'effectif qui gagne 5-1. Mais pour revenir sur le match du Betis, puisque c'est le plus récent rapidement, c'est bizarre de se saborder d'une telle manière. Après, le Betis Séville, ça reste une très bonne équipe de football avec vraiment des très bons joueurs. Je ne sais pas si vous avez regardé le match. Mais en tout cas, c'est bizarre de s'aborder d'une telle manière quand tu gagnes 2-1 et qu'il reste, allez, je crois, 15 minutes. Normalement, tu dois jouer la gestion. Sifli qui fait des changements un peu bizarres.
Il restait moins de 10 minutes. Hein.
Oui, il restait moins de 10 minutes.
Ils ont marqué, le Barça a marqué à la 84e.
Voilà, c'est ça. Et au final, Frenkie de Jong qui rentre, qui fait une entrée clownesque, qui plombe le match. Et voilà, la Liga en fait est totalement relancée et je la trouve vraiment passionnante cette année, la Liga. Il y a vraiment des bonnes équipes qui jouent très bien au football, à l'image de Bilbao aussi. Mais voilà, la Liga elle est totalement relancée et le Barça s'est abordé tout seul.
C'est bien, ça pourrait être dingue une fin de saison avec un titre qui se joue dans les deux, trois dernières, voire la dernière journée. Ouais. Entre ces deux ou même trois équipes, ça pourrait être super sympa à suivre.
Ouais. Et bien évidemment, n'oublions pas le Real Madrid qui perd à Bilbao avec Kylian Mbappé qui loupe son pénalty, hein, qui nous met un message aussi derrière. Un message plein d'espoir. Plus ou moins en tout cas, et on a pu voir se relancer face à Retafe, face à Gironde ce week-end avec une victoire 3-0 et le Real qui revient à 2 points avec un match en retard du Barça. Qu'est-ce que t'en penses, Ibrahima?
Non, bah Mbappé il a pas fait un bon match, hein, excusez-moi, malgré le but, c'est dans le jeu, c'est toujours pas bon. Après, le Real a su assurer les 3 points, hein, sur ce match, franchement il n'y a pas grand-chose à souligner, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Gérone qui s'est arrêté de jouer au bout de 20 minutes, j'ai toujours pas compris. Mais non, sinon le Real Madrid a su prendre les 3 points et au niveau du jeu, je suis toujours pas convaincu et je pense qu'ils peuvent produire beaucoup mieux quand même.
S'il y a un truc à sortir, c'est la passe de Bellingham sur le but qui est extraordinaire.
De Modric.
De Modric à Bellingham et de Bellingham.
Bellingham,
Modric qui
se retourne.
Ouais, Modric, tu sais qu'il a l'impression qu'il va temporiser. Après, parce qu'au début, Mbappé il fait un appel, il revient, t'as l'impression qu'il va temporiser.
Non, ça c'est sur le but de Mbappé.
Ouais, c'est ça que je dis.
Non, on parle sur la passe de Bellingham pour Arda Güler.
Ah, pour Arda Güler.
Les deux jeux, il se retourne et en une, il va lui
couper. Tu fais le terrain en 5 secondes, tu passes de ta surface à l'autre. C'est vrai que c'était magnifique.
Non, mais Bellingham, c'est le seul point positif pour l'instant. L'un des seuls points positifs.
Qui a pris le leadership depuis que Vinicius est blessé.
C'est son équipe, il faut que ce soit.
Et vous avez vu la réaction de Bellingham et même de Lucas Vazquez, je crois, au pénalty raté de Mbappé contre Bilbao.
Ils sont frustrés. Hein.
Non, à l'action, non,
l'action où il va pas dribbler contre
les tout seuls alors qu'ils sont en train de perdre, ça veut dire beaucoup de
choses. Oui, après, je pense qu'on va pas s'arrêter sur ça. C'est des joueurs, c'est des compétiteurs. Ils sont là pour gagner. Là. Non, mais ils sont là pour gagner. C'est des compétiteurs, ils sont là pour gagner. Ils le disent aussi. Moi, je peux aimer de cœur un ami et on peut commencer à jouer au football et il rate une action importante. Et je vais quand même m'énerver, tu sais.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà, il y a rien de plus. Mais Kylian Mbappé qui a marqué en tout cas encore avec Gérone et qui a mis le maillot dans le short comme aux années 2000, on peut dire. C'est reparti comme en 46, on peut dire ça comme ça? Non, du tout. Mais en tout cas, Kylian Mbappé qui s'est exprimé sur une interview de Click sur Canal+, avec Mouloud Achour. Qu'est-ce que vous retenez de ces déclarations, Alexandre, toi qui se frottais les mains, on va commencer.
Je vais commencer.
Vas-y.
Déjà, moi, j'attendais rien absolument rien de cette interview, parce qu'à partir du moment où tu choisis la chaîne, que tu choisis l'émission, du coup, que tu choisis l'intervieweur, que après tu regardes les rushs pour savoir si c'est bon, c'est pas bon, etc. À partir de ce moment-là, ça sert plus à rien, en fait. Voilà, tout ce que j'avais à dire.
Ok. Ibrahima, Kylian Mbappé, la raison de mon absence au rassemblement des Bleus en novembre, je ne peux pas la dire, c'était une discussion avec le coach, je voulais y aller mais je ne peux pas dire pourquoi, attention, parce que avec le coach, si le coach veut vous le dire, le coach vous le dira, mais le coach m'a dit de ne pas le dire, du coup je respecte ce que le coach m'a dit, et petite cerise sur le gâteau, on peut dire ça un peu comme ça, on est deux à le savoir. S'il y a quelqu'un d'autre qui le sait, je sais que ça sera de toi. C'est ce que Didier Deschamps lui dit avant de mettre fin à cette conversation téléphonique. Qu'est-ce que t'en penses, Ibrahima?
Pour revenir sur l'interview et sur ce passage, bon bah c'est leurs affaires. Hein. S'il a pas envie de le dire, il sait pourquoi, il sait ce que.
Mais donc il parle pour dire je le dirai pas. C'est incroyable quand même.
Non, mais on lui posait la question. On lui posait la question de son absence et il dit qu'il pouvait pas le dire. Donc sur ça, on peut pas lui en vouloir.
Donc c'est pas juste un choix. Moi, c'est ce que je comprends. Moi, je comprends que ça n'est pas juste un choix. Tu es en méforme, on ne prend pas.
Je pense que Deschamps lui en voulait peut-être un peu parce qu'avant ça, c'est sûr. Disait qu'il avait une sélection. J'ai plus la date. Il n'était pas venu.
Oui, en octobre.
Et que Deschamps avait insisté pour qu'il vienne et qu'il a dit qu'il pouvait.
Surtout que Deschamps était passé pour un con parce qu'il avait dit non, il vient pas, il est blessé. Deux jours après, il joue avec le Real.
Et Deschamps
parce qu'on est débile.
A l'air d'être quelqu'un de très rancunier, je pense qu'ils lui ont foulé, c'est tout. Hein,
après,
c'est...
je pense que j'aurais été rancunier à sa place aussi.
Hein, mais est-ce que vous pensez réellement à ça? Vous pensez que Kylian Mbappé peut dire je veux venir et Deschamps qui lui dit non parce que je suis rancunier ou du moins parce que la dernière fois tu m'as fait ce coup-là? Est-ce que vous pensez que. Moi
il n'a pas dû lui dire ça comme ça.
D'accord, mais moi, j'y crois pas un instant. Moi, je pense que. Ils sont arrangés entre eux deux parce que oui. Je pense que si Kylian Mbappé avait vraiment l'intention de venir, je pense qu'il serait venu en truc. Mais moi, de la façon où j'ai vu l'interview, comment il a voulu la faire passer, il a dit c'est lui qui décide, c'est lui le boss. Il a insisté là-dessus, c'est lui qui décide, c'est lui le boss, c'est lui le chef. S'il dit c'est comme ça, c'est comme ça. Toi, est-ce que t'es convaincu par ces dires-là?
Je suis convaincu par rien de ce qu'il a dit. De toute façon, je l'ai pas vu l'interview, comme je l'ai dit. Il y a un titre d'Eurosport qui a dit Mbappé a beaucoup parlé, mais il n'a rien dit. Et moi, c'est pour ça que j'ai pas voulu voir l'interview. C'est uniquement de la communication. Je pense qu'il avait des messages à faire parler. Comme il y a eu la dissension entre lui et le coach, il fallait que Deschamps réaffirme son autorité par rapport à Mbappé aussi. Et la prise de parole Mbappé va en ce sens. Je sais que c'est Deschamps le boss, etc. Moi, vraiment, je suis pas du tout intéressé par l'interview. C'est vraiment uniquement de la com. Et au-delà même de Mbappé, moi, je l'attends sur le terrain. Pas dans les interviews avec Mouloud Achour, vraiment. Parce que s'il empilait les buts au Real Madrid depuis le début de saison, cette interview, il n'aurait pas besoin de la faire. Donc c'est vraiment pour pallier un petit peu son manque de performance pour moi qu'il a fait ça. Et j'ai un
pour
truc
redorer à... son image aussi.
Ouais, pour redorer son image aussi. Mais s'il était bon sur le terrain, qu'il avait une bonne attitude, il n'aurait pas besoin de la redorer encore une fois. Et dernière chose, c'est que moi, ça m'interpelle aussi sur le rôle du journaliste. Hein, Mouloud Achour, on se plaint beaucoup dans le métier de journaliste que les influenceurs prennent parfois leur place. Quand tu vois ce qu'il a fait, et avec ces questions préparées à l'avance, cette opération de com' massive, c'est pas du journalisme. Pour moi, c'est vraiment de la propagande, c'est de la communication. Donc voilà, pas Jack Tani, mais Lina Situation aurait pu faire la même chose. Oh. Donc pour moi, totalement. Pour moi, c'est plus du foot, c'est plus du sport, c'est plus du journalisme. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas vu et pourquoi tout ça ne m'intéressait pas.
Merci Lucas. Kylian Mbappé assure qu'il aurait prolongé au Paris Saint-Germain pour son frère Ethan Mbappé. Ça s'est passé, c'est la chose qui m'a le plus affecté. Lui, son Real Madrid, c'était le Paris Saint-Germain et indirectement, je lui ai enlevé. Il me disait qu'il ne voulait pas rester, que ce n'était pas normal ce qu'il me faisait. Je lui ai dit, si tu veux rester, je prolonge et on reste un peu. J'aurais abandonné mon rêve de Madrid pour lui. Ethan, c'est mon frère. À quoi bon sert de signer dans le meilleur club du monde si tu tues la carrière de ton petit frère? Maxence.
Moi, j'ai pleuré à ce moment-là. C'était beau. Non, je pense qu'il a pris tous les suiveurs de football pour des imbéciles, mais ce n'était pas destiné aux suiveurs de football. Et le choix du média dit tout. Et c'est pour ça que Mouloud Achour, je n'ai pas envie de le tacler parce qu'il ne peut rien faire. C'est monté. Ça se trouve, il a posé des questions, il l'a relancé. Ça se trouve, il l'a mis
parce
en discuter.
Que, parce
on
que,
le verra
excuse-moi,
jamais.
Excuse-moi de te couper. Sportive. Non, mais excusez-moi de vous couper. Il a dit que c'était pas que sportif, hein, que c'était social, un peu tout, culture. Il a dit que c'était plus culturel que sportif. Mais attendez, quant à Kylian Mbappé qui veut venir n'importe où aujourd'hui, je pense dans n'importe quel média, on le reçoit.
Bien sûr.
Maintenant, après, on est, voilà, à ses conditions. C'est bien ça le problème.
C'est plus du journalisme dans ces cas-là.
Mais après, dans ce que dit Mbappé, on peut lui reprocher quand même. Il s'est donné le bon rôle sur toutes les affaires. C'est-à-dire, l'équipe de France, c'est pas de sa faute, c'est le coach. Le capitana, c'est pas de sa faute, lui, il voulait pas trop. Griezmann aurait mérité, mais on l'a forcé à le prendre.
Il voulait pas,
le PSG, il s'entend super bien avec l'émir. C'est Nasser qui a fait n'importe quoi. Il s'excuse auprès des supporters parce que voilà. Il est fautif sur rien. Il est fautif en rien. Il se donne le bon rôle. Voilà, sur tous les sujets, il rentre pas dans le fond.
Il n'y a eu aucune remise en question. En fait.
Aucune remise en question, rien. Il te balance sa.
Il aurait peut-être dû être un peu plus expressif quand
ouais,
même.
C'était son
avec mea culpa, les supporters.
Grand seigneur. Et puis voilà, il aurait pu
c'est
aussi.
Des excuses à la Macron, ça, on dirait.
Ouais, c'est plus écrit, c'est un truc de politique.
Parler uniquement de.
En parlant
de
Macron,
uniquement
il a dit
de com, tu vois.
Il pense qu'à l'heure actuelle, il est un peu plus aimé que. Que Macron,
c'est pas très difficile.
Je préfère encore Mbappé à Macron, c'est la vérité.
Après, ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il parlait de lui à la troisième personne. Ça m'a plutôt surpris.
Ça, c'est fort, c'est Alain Delon.
Je pensais qu'il y avait Samuel Eto'o qui faisait ça dans le foot, mais Kylian Mbappé aussi sait le faire. Donc, c'est assez gênant quand même. Oui, quand Kylian, ok. Mais non, sinon, après, le journaliste est hyper complaisant, mais tu peux pas lui en vouloir. Quoi. Quand c'est Mbappé qui vient vers toi. Pour faire une interview.
Puis ce qui est marrant aussi, c'est qu'il dit j'écoute pas ce que les gens et la presse disent, je lis pas. Mais après toute l'interview, il passe son temps à dire les gens disent, parce qu'on dit que, j'entends que, je lis que.
Être une star, c'est que, machin. Mais quand les louanges, quand tu faisais des louanges, tu les prenais.
Être Kylian. Non, mais après, je pense que dans les cours de récréation au collège, ça fait grosse impression. Je pense que les enfants de 13-14 ans, ils sont hyper. hyper hypé par Kylian, et ils ont envie de voir la suite au Real. Donc bon, il a sa fanbase, c'est bien.
Oui, et je pense qu'on a tous envie de voir la suite au Real. En tout cas, on souhaite quand même le meilleur à cette équipe, à ce joueur du moins de Kylian Mbappé, notre petite pépite française. Ouais. Aussi, on lui souhaite quand même du bien, qu'il nous a procuré pas mal d'émotions avec l'équipe de France. Hein, et j'espère qu'on le soutiendra et qu'il réussira dans ce qu'il va entreprendre sportivement. Merci en tout cas Alexandre, Lucas, Maxence et Ibrahima pour cette émission. Merci à Léo pour la technique, et merci à vous, nos chers auditeurs et auditrices, parce que sans vous, nous sommes rien. Et on espère qu'on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et couvrez-vous parce qu'il fait très froid. Et bonne soirée à vous.
Bonne soirée.